السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي لمحمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 5 جمادى الأولى 1437 de l'Hégire, soit le 13 février 2016 d'après le calendrier chrétien. Donc nous sommes toujours avec le livre Le Mal et le Remède de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, et c'est le cours numéro 49 inshallah ta'ala. Le titre: les trois règles avant, les trois degrés de l'amour fou. Les trois degrés de l'amour fou. Avant cela, une petite remarque ou deux. La première, Alhamdulillah, que par rapport à ce livre, Alhamdulillah que j'ai une nusra en arabe. J'ai le livre en arabe. Sinon, il y a des passages en français, là, vraiment incompréhensibles. Vraiment des passages. Yani, des paragraphes comme ça, si tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Naam. Tellement, yani, il faut dire que l'arabe, yani, c'est très vaste, etc. Donc, alhamdoulilah, qu'en revenant, yani, à la base, à la source et à l'arabe, donc, et aussi, alhamdoulilah, que, yani, je connais les deux langues. Sinon, yani, si quelqu'un connaissait pas comme seulement le français, je suis sûr, je vais lui dire maintenant des phrases, et je lui dire que veut dire ici Ibn al-Qayyim. Il ne pourra pas répondre. De quoi? De qui est-il en train de parler? Est-ce que le pronom ici, ça revient à X ou à Y? Ça revient, il est en train de parler de la victime ou de l'assassin. Et comme ça, c'est difficile. C'est très difficile à savoir. Mais alhamdoulilah qu'il y a, yani, nous sera en arabe pour comparer, pour revenir là-bas quand il y a des problèmes. Deuxièmement, à partir de ce cours, car il reste peut-être 5 cours à peu près, à partir de ce cours, inshallah ta'ala, je vais sauter les athar qui sont da'if. Les athar, vous savez ce que c'est? Ça veut dire, ce qu'on rapporte sur les sahaba, les tabi'in, tabi'in, etc. Tout cela, je vais les sauter. Pourquoi? Parce que c'est da'if. Il va citer beaucoup de choses da'if. Donc pourquoi se remplir la tête par des choses daif? Quelqu'un va dire, la fois passée, vous avez dit que c'est bien de connaître le sahih, etc. Afoun, c'est bien de connaître le daif pour le connaître afin d'éviter. Je dis oui, c'est vrai, mais ça c'est par rapport au hadith, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les tabi'in ou bien, c'est pas très important. Non, surtout, d'ailleurs ça demande même pas que le athar soit authentique. Alors qu'en est-il maintenant s'il est live? Et aussi je vais sauter quelques ou alors assez, non, assez beaucoup quelques. Je vais sauter quoi? Les poèmes. Il y a beaucoup de poèmes qui vont venir et qui, en fin de compte, il y en a sans que des choses, des histoires, etc. Je vais en sauter. Il y en a certains d'entre eux. Non. Donc je dis, Ibn al-Qayyim m'a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'amour fou connaît trois degrés: initial, médian et final. Au degré initial, à son début, il doit repousser cet amour de toutes ses forces. Il doit repousser cet amour de toutes ses forces si si le fait de parvenir à l'être aimé est impossible pour une raison mondaine et légale. Donc il dit, il doit repousser cet amour fou de toutes ses forces. Mais il a mis une condition, il a dit, si le fait de parvenir à l'être aimé est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire si le fait de parvenir à l'être aimé est impossible? Ça veut dire sinon, yani, il ne faut pas le repousser. Non, il ne faut pas le repousser si j'aime quelqu'un d'un amour fou et je sais par exemple que je peux me marier avec cette personne. Donc pourquoi le repousser? C'est bien. Et le prophète alayhi salam a bien dit qu'il n'y a pas pour les amoureux comme le mariage. Non. Donc l'essentiel c'est de ne pas le montrer. Mais le repousser, s'il y a une issue, pourquoi? Ici il dit, si c'est impossible de parvenir à l'être aimé pour une raison mondaine, non, ou légale. Légale qui a rapport avec la charia, la personne ne remplit pas les conditions, ou pour une raison mondaine, non, la personne est loin, je n'ai pas comment avoir de contact avec elle, ou bien physiquement n'est pas bien, ou bien. Il dit, s'il n'y parvient pas, c'est-à-dire à repousser, ou si son cœur veut absolument voyager vers son bien-aimé, et c'est là le degré médian et final, il doit le cacher. Donc il doit cacher cet amour fou, ne pas le montrer, et ne pas chanter la beauté de l'être qu'il aime devant les gens. Pourquoi? Ça va donner quoi sinon? Associons ainsi le shirk et l'injustice. Le shirk de l'amour fou plus l'injustice d'avoir quoi? De n'avoir pas caché cela et d'avoir chanté la beauté de l'être aimé devant les gens. Cette injustice compte parmi les plus grandes formes qui soient. Et elle est peut-être plus néfaste à l'être aimé et sa famille que l'injustice causée à ses biens. Non, cette injustice, le fait de montrer ceci aux gens, ça fait plus de tort à l'être aimé que le fait qu'on lui prenne, par exemple, ses biens. Il dit ici, non, car en dévoilant son amour pour lui, on expose l'être aimé à la critique des gens qui considéreront cela comme une vérité ou un mensonge. Non. À ce sujet, la plupart des gens croient à la réalité d'une idylle, à la moindre ambiguïté. Et si on dit un tel a fait ceci à un tel ou une telle, une personne dément et 999 le croient. Donc, si quelqu'un il a dit commence à parler de ces choses-là alors qu'il devrait cacher, il va faire vraiment du tort à ce bien-aimé-là et aussi à qui il a dit à sa famille, Nam, et il va leur causer une injustice. Il a dit, Nam, à ce sujet, la plupart des gens croient à la réalité d'une idylle à la moindre ambiguïté. Nam, un petit fil, un petit on dit, khlas, ils disent donc c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et il y a ceci et cela. Il a dit, une personne dément, une personne ne croit pas. Du coup, c'est pas vrai. Et 99, pour combien qu'il a dit? Et 999 le croient. 999 croient. Non, croient ceci, même si peut-être la personne a inventé ses sentiments et c'est pas vrai, il n'y a pas ça. Et que la victime ou le bien-aimé n'est même pas au courant. Les récits des fous d'amour qui se dévoilent aux gens à ce sujet sont crus avec certitude. Et si une victime les informe faussement concernant autrui, les gens la croient d'une résolution qui n'accepte aucune contradiction. Et si tous deux, maintenant, les deux, celui qui a l'amour fou et le bien-aimé, et si tous deux sont réunis en un même lieu, ils croient avec résolution que c'est là une promesse qu'ils se sont faite. Il veut dire par là que, déjà le fait que la personne raconte, ils vont la croire à 100%. Qu'en est-il maintenant, s'ils les voient ensemble, même s'ils se sont réunis dans un même endroit, il a dit, pas par accord. Par exemple, lui, il est allé chez le boulanger, et elle est venue chez le boulanger pour acheter aussi. Et, on les a vus ensemble. Non, l'un à côté de l'autre en train d'acheter. Ah là, khlas, ils vont dire, il a dit, si tous les deux sont réunis en un même lieu, ils croient avec résolution que c'est là, une promesse qu'ils se sont faite. pour se donner un rendez-vous. Leur résolution à ce sujet sur ce qui n'est qu'une supposition, imagination, ambiguïté et récit mensonger est semblable à leur résolution face à un événement tangible, un événement qu'on ne peut démentir. C'est ainsi que les gens ont faussement accusé la plus pure des femmes, la bien-aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'innocenté d'au-delà des sept cieux, notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, en raison d'un événement ambigu, qui fut quoi? Qui fut que Allah ta'ala qadr que ils l'ont vu avec un homme, quel homme? Qui fut que Safwan ibn Mu'attila radiallahu ta'ala anha la ramena seule après les troupes quand elle s'est endormie et qu'ils sont partis et elle est restée chercher la chaîne et ceux qui étaient avec elle sont partis. Naam, croyant qu'elle était sur le chameau, car sur le chameau il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir si la personne est dans la tente ou n'est pas. Donc Safwan ibn Mu'attila l'a trouvé, l'a ramené, bien sûr. Marchait avant elle, ne parlait pas entre eux, et les gens quand ils l'ont vu, ils ont dit que c'est pas seulement ils se sont donné rendez-vous, mais c'est grave. Il a dit, ont provoqué leur perte par cet événement, ce que Allah Ta'ala a voulu. Et si Allah Azza wa Jalla ne s'était pas chargé de l'innocenter, de la défendre et de démentir celui qui l'a calomnié, il en aurait été autrement. Naam. En somme, le fait de dévoiler l'amour qu'on éprouve pour celui avec lequel tout lien est interdit est une injustice, un tort et une transgression envers lui et sa famille. Je crois que vous vous souvenez, ça fait pas longtemps, on m'avait posé une question à ce sujet et j'avais dit que c'était pas interdit d'avoir des sentiments dans le cœur. Mais dévoiler, c'est ça ce qui est interdit. Naam. Il a dit, donc, le fait de dévoiler l'amour qu'on éprouve pour celui avec lequel tout lien est interdit est une injustice, un tort et une transgression envers lui et sa famille. Pourquoi? Car on l'expose à ce que nombre de gens croient en leur supposition à son sujet. Naam. Donc, les gens vont croire que... Qu'est-ce qu'ils vont croire? Mille et une choses. Ils vont croire donc qu'il y a une relation et qu'il y a même peut-être une relation intime et qu'il y a ceci, il y a cela. Et si on cherche l'aide d'un tiers qui aille lui rapporter par désir ou par crainte, alors l'injustice se propage et cet intermédiaire devient un homme sans honneur et injuste. Donc, il a dit, si maintenant on cherche l'aide d'une personne, d'un tiers, qui aille rapporter à la personne envers laquelle on ressent ces choses-là, qui aille lui dire, voilà... X qu'il ressent envers toi et comme ça. Il a dit par désir, parce qu'il veut faire ça, parce qu'on lui a donné de l'argent pour qu'il fasse ça, ou par crainte, ou bien parce que l'autre l'a menacé par exemple. Un mohim, il est allé dire. Dans ce cas, l'injustice se propage. Et cet intermédiaire qui est allé dire à l'autre, voilà X ce qu'il pense et ressent, cet intermédiaire devient un homme. Un homme ou une femme, si c'est une femme, c'est la même chose. Devient un homme sans honneur et injuste. Sans honneur et injuste. Diyut a dit Ibn al-Qayyim. Et le Diyut, le prophète sallam a dit qu'il ne rentrerait pas au paradis. Il dit ici, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'intermédiaire entre celui qui soudoie et celui qui est soudoyé. Le prophète alayhi sallam a quoi? A maudit l'intermédiaire entre celui qui soudoie et celui qui est soudoyé. Naam. Il y en a celui qui soudoie et celui qui est soudoyé. Soudoie, c'est-à-dire, il n'accepte pas quelque chose ou je ne sais pas, et je lui donne par exemple de l'argent ou là, et je lui donne richoua, naam, et il accepte. Il accepte de faire la chose. Naam. Alors, et je lui envoie un intermédiaire. Pour lui, il va lui dire, voilà, X a dit qu'il te donnerait tant, ou là, cette chose ou là, si tu lui donnes telle et telle chose, ou là, ceci, cela. Ceci, cela, bien sûr, qui n'est pas de son droit, bien sûr. Il dit, donc, celui-là, le prophète Hassan l'a maudit. Alors, que dire de l'homme sans honneur, qui est l'intermédiaire entre l'amoureux fou et l'être dont il était pris en ce lien illicite. L'amoureux fou, et cet homme sans honneur s'entraidant dans l'injustice à l'encontre de leur chérie et de ceux desquels l'injustice causée à leur personne, leur bien ou leur honneur dépend la réalisation du but. Bien souvent, la réalisation du but est liée au meurtre d'une personne dont la vie en empêche la réalisation. Naam. Des fois, pour arriver à ce but, il y a une personne qui gêne. Naam. Et certains sont même prêts à quoi ? À ôter la vie à la personne qui gêne. Que ce soit du côté de l'amoureux fou, naam, ou bien du côté de l'être dont il s'était pris. Ou bien les deux. Les deux se mettent d'accord pour ôter la vie à la personne qui est une barrière entre les deux. Naam. Que ce soit le père, par exemple, de la fille ou son père à lui qui ne veut pas de cette union. Et comme ça. De combien de victimes a-t-on versé le sang pour cette raison ? Qu'il s'agisse d'époux, maîtres ou proches ? Combien de femmes ont-elles été trompées contre leurs époux ? Et combien de servantes et servants contre leurs maîtres ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui agit ainsi. Ils sont nés innocentés. Dans le commentaire, il dit, allusion est faite au hadith, le hadith qui dit, celui qui trompe un esclave contre ses propriétaires n'est pas des nôtres. Et celui qui corrompt une femme contre son mari n'est pas des nôtres. Voir Silsila Sahiha, hadith numéro 324. Donc celui qui trompe un esclave contre ses propriétaires n'est pas des nôtres. Et celui qui corrompt une femme contre son mari n'est pas des nôtres. Corrompre une femme contre son mari. L'attirer vers une relation qui est haram, ou bien faire avec elle le haram, ou bien, toute personne qui fait ça n'est pas des nôtres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit d'une chose, il dit d'elle, si la personne l'a fait, il n'est pas des nôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Contrairement aux Khawarij et contrairement aux Murji'a. Al-Sunna al-Jama'a sont au milieu. Pourquoi? Un hadith pareil n'est pas des nôtres. Khawarij disent quoi? Il est kafir. Il n'est pas des nôtres et donc il est qui? C'est un kafir. Il n'est pas de la Jama'a du prophète alayhi sallam. Il n'est pas sur son sentier, il est kafir. Et les Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent à l'opposé? Ils disent n'est pas des nôtres. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la perfection. Naam. Il lui manque la perfection, c'est tout. Mais il n'a pas fait quelque chose de grave. C'est un petit péché. Naam. C'est comme le hadith Men Rasha Laysa Minna. Et aussi Men Rashana Laysa Minna. Hein. Celui qui. Rasha, ça veut dire. Disons ruse, celui qui trompe, celui qui dit n'est pas des nôtres. Non, celui qui vous trouvez le mot, moi j'ai pas trouvé le mot, c'est pas tromper. Recha, ça veut dire j'ai le mot dans ma tête mais je l'ai pas, je l'ai sur le bout des lèvres. Rechana, ça veut dire bon, je l'ai pas trouvé. Non, pas double visage, non. Non. Rachana, c'est comme par exemple, voilà, tricher, jazakallahu khair, tricher. Je te vends une voiture, je te dis le moteur est mashallah. Alors que c'est pas vrai, le moteur est, gâché, je te dis, je te vends une chose, je te dis elle est mashallah. Non. Bon, il a triché. Donc celui qui triche n'est pas des nôtres. Donc le tricheur a fait un grand péché. Comme le hadith Man hamala silah alayna, celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nous. Khawarij disent il est kafir et le murji'a dit c'est pas grave, c'est un petit péché. Al-Sunna al-Jama'a disent là où il y a n'est pas des nous, ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Al-Muhim, on continue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit, il s'est innocenté. Il s'est innocenté. Naam. Hein? Et cela compte parmi les plus... Voilà, il l'a cité ici. Et ça compte parmi les plus grands péchés majeurs. Grands péchés majeurs. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de demander en mariage une femme déjà demandée par son frère, ou d'enchérir faussement sur l'enchère de son frère lors d'une vente. Alors que dire de celui qui tente de séparer un homme de son épouse et de sa servante afin de pouvoir parvenir à elle? Donc, toi, si tu sais que quelqu'un a demandé la main d'une femme, tu n'as pas le droit de demander la main de cette femme. Jusqu'à quoi qu'il se désiste lui, il change d'avis, ou bien qu'on lui rende la réponse, qu'on dise non, on t'a pas accepté. Alors que c'est halal, tu vas faire quelque chose de halal, c'est demander sa main. Alors ça, c'est haram. Maintenant, qu'en est-il si tu vas être la cause pour séparer une femme de son mari, en l'attirant, la séduisant, etc. Non. Il dit ici, ceux qui sont fous amoureux, des belles apparences et les hommes sans honneur qui les aident ne considèrent pas cela comme un péché. Si cet amoureux fou cherche à parvenir à celle qu'il aime et la partager avec l'époux et le maître, c'est là un péché, une injustice envers autrui qui n'est pas moindre que le péché de la fornication, même s'il ne parvient pas jusque-là. Donc, il a dit ici, pour l'amoureux fou et pour l'intermédiaire, c'est pas un péché ça. C'est pour ça que yani, ils font ça. C'est pas l'autre, il dit, c'est pas de ma faute, c'est quelque chose qui me dépasse, des sentiments qui se trouvent dans mon cœur. Et l'intermédiaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je suis en train de l'aider, miskin, c'est un pauvre, il est tombé malade et comme ça, donc je l'aide. Donc c'est pas un péché. Donc il me dit, et c'est là, alors que c'est là un péché, une injustice envers autrui, qui n'est pas moindre que le péché de la fornication. Il n'est pas moindre que le péché de la fornication, même s'il ne parvient pas jusque-là. Naam. Le repentir pour fornication ne met pas fin au droit d'autrui. Car si le repentir fait cesser le droit d'Allah Azzawajal, le serviteur garde la possibilité de réclamer son droit au jour de la résurrection. L'injustice causée au père par la perversion de sa chair. Naam. L'injustice causée au père par la perversion de sa chair, de sa fille donc. Hein. Naam. Donc tu as perverti, naam, sa fille, tu as fait un problème aussi au père, et celui qui lui est plus cher que sa propre personne. Et aussi l'injustice causée à l'époux, par la perversion de sa bien-aimée. Naam. Donc, tu as perverti l'épouse de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as causé une très grande injustice à qui? À l'époux. Et le crime commis contre sa couche. Ceci, il a dit, est plus grand encore que l'injustice qu'on lui causerait en prenant tous ses biens. Naam. C'est pourquoi cela cause plus de tort que le fait de lui prendre ses biens. Et cela n'est semblable pour lui qu'au fait de verser son sang. Naam. Il a dit, quand on fait quelque chose comme ça à un époux, on lui pervertit son épouse, naam. Donc, il y a une grande injustice à l'époux, grande injustice à la famille, à sa famille à elle, grande injustice aux proches. Il a dit, c'est tellement grave, c'est une grande injustice, tellement grave que si on avait pris tous les biens de cet époux, ça ne lui aurait pas fait tant de mal que cela. Ibn al-Qayyim dit, malheur pour cette injustice. Malheur. Non, c'est pour cela que plusieurs gens leur prennent leurs biens, des milliards, mais ils l'oublient. À force de temps, ils l'oublient. Un mois, deux mois, six mois, une année, ils l'oublient. Mais, qu'on lui prenne sa femme, que sa femme, son épouse, fasse une chose pareille, c'est très rare, yani, que quelqu'un puisse oublier. C'est très rare que quelqu'un puisse oublier. Et je pense, c'est même vice-versa. C'est même vice-versa, c'est-à-dire, si maintenant c'est l'homme qui, par exemple, trompe sa femme. Non. C'est pour ça qu'on dit dans l'adage très connu, on dit la femme oublie, non, ou plutôt le reste, l'épouse pardonne, mais n'oublie jamais. Non. Peut-être elle pardonne, mais n'oublie jamais. Ça reste des choses qui marquent. Ce sont des choses qui marquent à vie. Il dit ici, malheur pour cette injustice de plus grand péché que la fornication. Et si le droit du combattant sur le sentier d'Allah Ta'ala, Mujahid, et qu'au jour de la résurrection, on arrête celui qui lui a causé ce tort, et qu'on dise, prends ce que tu veux de ses bonnes actions. Ainsi qu'on a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ensuite, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Rapporté par Muslim 1887. C'est-à-dire, que pensez-vous qu'il restera de ses bonnes actions? Si s'ajoute à cela le fait que la victime de cette injustice soit un voisin ou un proche du coupable. Alors l'injustice se multiplie et devient une injustice aggravée de rupture des liens de parenté et de nuisance au voisin. Et, comme a dit le prophète Al-Islam, n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Rapporté par Al-Bukhari 56-84 et Muslim 25-56. Il a dit aussi, celui dont le voisin n'est pas préservé de ses fléaux. Al-Bukhari 56-70 et Muslim 46. Si l'amoureux fou cède pour parvenir à l'être dont il s'était pris, il cède de démon parmi les djinns, par un sort ou autre, alors s'ajoute au polythéisme et à l'injustice la mécréance de la sorcellerie. Ensuite, vous savez que beaucoup de gens, que ce soit des hommes ou des femmes, mais c'est des femmes, c'est beaucoup plus, hein, ont recours dans des cas pareils à quoi? À la sorcellerie. Non, quand ils savent que là, ce n'est plus possible d'atteindre le but, non, alors ils disent il nous reste un remède et une solution. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Alors, Ibn al-Qayyim dit, si l'amoureux fou cède pour parvenir à l'être dont il était pris, alors il cède de démons parmi les djinns, par un sort ou autre, alors s'ajoute au polythéisme et à l'injustice, s'ajoute quoi? La mécréance de la sorcellerie. S'il ne le fait pas lui-même, mais l'agrée, il aura agréé la mécréance sans y être contraint, afin de parvenir à son but, et cela n'est pas éloigné de la mécréance. Maintenant, si c'est pas lui qui fait la sorcellerie, par exemple, non, mais il l'agrée, non, il l'agrée qu'on fasse ça pour lui, non. Il a dit, ce n'est pas loin de la mécréance. En somme, l'entraide à ce sujet, est une entraide dans le péché et la transgression. Itmul est une entraide dans le péché et la transgression. Quant à ce qui est lié à la réalisation de l'objectif de l'amoureux fou, comme injustice dont le tort frappe autrui, cela n'est pas ignoré. S'il parvient à son objectif vis-à-vis de l'être dont il s'était pris, ce dernier a d'autres objectifs pour lesquels il demande à l'amoureux fou de l'aider. Et celui-ci ne peut y échapper. Ainsi, chacun d'eux aide l'autre dans l'injustice et la transgression. Non. Donc, même yani, l'être dont il s'était pris, des fois c'est lui qui pousse l'autre et lui demande de l'aider pour qu'ils arrivent au but. Et des fois, l'être dont il s'était pris, c'est lui-même qui lui donne la solution, il lui montre yani, les ruses et lui montre comment faire. Comment faire pour yani, éloigner, par exemple, le mari. Non. Ou alors pour, je sais quoi, le faire tomber dans de la folie ou l'éloigner du pays ou le jeter en prison. Non. Pour que yani, ils puissent faire ce qu'ils veulent. Non, ou alors c'est l'être épris qui envoie l'amoureux fou, qui lui montre c'est où le sorcier. Voilà, je t'envoie chez tel sorcier, c'est lui qui peut nous faire la solution. Et comme ça, il dit ici, l'être chéri aide l'amoureux fou dans l'injustice contre ceux qui lui sont liés, qu'il s'agisse de sa famille, ses proches, son maître ou son époux. Naam. Et l'amoureux fou aide l'être dont il est épris dans l'injustice contre celui qui s'oppose à la réalisation de son objectif. Voilà. Maintenant, tout cela pourquoi ? Tout cela pourquoi ? Parce que, vous avez dû le deviner, parce que il a dévoilé ce qu'il avait dans le cœur. Naam. Si l'autre maintenant, l'être dont il s'était pris, le bien-aimé, naam, n'avait pas su tout cela, l'être chéri n'avait pas tout su cela, hein, il serait pas rentré aussi, lui aussi rentré, il serait pas rentré dans la galère. Naam. Mais maintenant que lui sait, et que la relation commence à devenir étroite, donc ils sont prêts à tout faire pour atteindre cet objectif. Il dit ici, chacun d'eux aide l'autre dans la réalisation de ses objectifs qui comportent une injustice vis-à-vis des gens. Ainsi, la transgression et l'injustice causées aux gens surviennent de leur association dans la turpitude et leur entraide dans l'injustice. C'est l'usage entre les fous d'amour et les êtres dont ils sont épris. L'amoureux fou aide l'être dont il est épris en ce qui comporte injustice, transgression et iniquité, au point qu'il œuvre pour lui à un rang qui ne convient, à un rang qui ne convient à lui, ni à ses semblables, de lui faire obtenir des biens, naam, illicites, de se montrer arrogant pour lui vis-à-vis d'autrui. Et si l'être chéri se dispute avec une tierce personne, il se mettra nécessairement de son côté, qu'il soit coupable ou victime. Coupable ou victime. Ceci au point que l'injustice du fou d'amour vis-à-vis des gens ne le conduise à ruser pour s'accaparer leurs biens et les faire parvenir à l'être chéri par le vol, la spoliation, la tromperie, les faux serments, le brigandage et autres. Cela peut même le conduire à tuer celui dont l'Azzawajal a interdit le meurtre afin de s'accaparer ses biens et les faire parvenir à l'être aimé. Ça s'est vu, ça c'est... Tout le monde connaît des histoires, pas une histoire. Tout le monde connaît des histoires de ce genre. Dans les journaux, c'en est plein. C'en est plein, des milliers d'histoires de ce genre. Yani, ce que fait l'amoureux fou, nan, à cause de l'être chéri, yani, ce qu'il vole, ce qu'il fait pour le ravir, et le contraire aussi. Tous ces fléaux et beaucoup plus encore, naissent de l'amour fou pour les belles apparences, naam, qui mène à la mécréance claire. Des gens nés en islam sont devenus chrétiens en raison de la folie amoureuse. Comme cela est arrivé à un muezzin, celui qui appelle à la prière, qui vit une belle femme sur un toit, fut séduit par elle, descendit, entra chez elle et la demanda. Elle lui répondit, « Je suis chrétienne. Si tu embrasses ma religion, je t'épouse. » Il le fit. Il devint chrétien. Et le même jour, il monta à l'étage, tomba et décéda. Ça a été cité par Abdelhaq al-Ishbili dans son ouvrage « L'Aqiba ». On l'a cité déjà une fois. Lorsque les chrétiens veulent christianiser un prisonnier, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font voir une belle femme. Lorsque les chrétiens veulent christianiser un prisonnier, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font voir une belle femme à laquelle ils ordonnent de se faire désirer de lui, jusqu'à ce que son amour pour elle s'ancre dans son cœur. Elle s'offre à lui s'il entre dans sa religion. À ce moment, il a cité le verset, il a dit à ce moment, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. À ce moment, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'il veut. Donc à ce moment-là, yani, celui qui, Allah Ta'ala, lui veut du bien, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va raffermir son cœur. Et celui qui, dans son cœur, n'a que du mal, il ne veut que le mal, il ne demande pas à Allah Ta'ala de le préserver comme a fait Yusuf alayhi salam, donc il va tomber dans la fitna. Ibn Qayyim dit, dans la folie amoureuse, le fou d'amour et l'être chéri se causent mutuellement injustice en s'entraidant dans la turpitude et l'injustice. Chacun d'eux est injuste envers lui-même et son compagnon. Et leur injustice touche également autrui, ainsi qu'il a précédé. Plus grave encore, leur injustice par le politisme, hein, car l'amour fou compte toutes les formes d'injustice. Donc, l'amoureux fou et l'autre, et l'être chéri, qu'est-ce qui se passe? Ils se font du tort à eux-mêmes, yani chacun se fait du tort à lui-même, et à l'autre, et à son compagnon, et ils font du tort aux gens, comme on l'a vu, à l'intermédiaire, à leur famille, et yani, ils font yani, le shirk. Après cela, ils font le shirk avant tout cela. Il dit ici, si l'être chéri ne craint pas Allah, il expose le fou d'amour à la destruction. Et c'est là une injustice de sa part que de se faire désirer, alors de se parer pour lui et de l'attirer par tout moyen, afin de lui soutirer ses biens et ce qui lui sera utile. Sans pour autant s'offrir à lui, afin que son désir ne disparaisse pas après qu'il ait satisfait son envie. Subhanallah. Donc l'être chéri, s'il craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exposer ce miskin qui est tombé follement amoureux à quoi? À sa destruction. À sa destruction. Naam. Il dit ici, afin de lui soutirer ses biens, sans pour autant s'offrir à lui. Pourquoi? Car s'il va, l'être chéri maintenant va s'offrir à lui, l'autre, yani, il aura assouvi ses passions, et bien sûr, le feu qui brûlait en son cœur s'est maintenant éteint. Il ne cherche peut-être même plus après l'autre. Mais ici, yani, l'être chéri, yani, ruse, et ne veut pas s'offrir à lui pour que son désir ne disparaisse pas. Il lui fait ainsi vivre le pire des châtiments. Et le fou d'amour peut en arriver à tuer son être aimé afin de se venger, surtout si ce dernier s'offre à autre que lui. Naam, surtout si ce dernier non seulement ne s'offre pas à lui, mais encore, qu'est-ce qu'il fait? Il s'offre à une autre personne. Combien l'amour fou aura-t-il fait de victimes des deux côtés? Combien a-t-il fait disparaître comme bienfait, appauvri comme richesse, fait chuter comme rang et disloqué comme union? Combien a-t-il corrompu de familles entre père et fils? Lorsque la femme constate que son époux est fou d'amour d'une autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend elle aussi un amant. Ainsi, l'homme est hésitant entre le fait de détruire son foyer par le divorce, maintenant qu'il sait cela, et l'absence d'honneur. Yani, qu'est-ce qu'il doit choisir? Yani, des fois détruire son foyer par le divorce, ou bien l'absence d'honneur, ou bien faire semblant que je ne ressens rien, ça ne fait rien, et je la laisse comme ça. Donc elle a un amant. Non. Il dit, certains choisissent la première solution, le divorce. D'autres, la deuxième. Il dit, ouf, comme je fais moi, elle aussi, elle peut faire ce qu'elle veut. Hein. Liberté. Donc chacun fait ce qu'il veut de son côté. Et puis il dit, pourquoi, puisque moi je fais des choses comme ça, pourquoi elle fait pas? Non, il faut être juste et légal. L'homme sensé, dit Ibn al-Qayyim, ne doit donc pas permettre à l'amour fou de dominer son âme, afin qu'il ne mène pas ses méfaits en totalité, en majorité ou en partie. Non. Celui qui ne le fait pas néglige son âme, et il est trempé par elle. Et si elle périt, c'est lui qui l'aura fait périr. S'il n'avait pas cessé de regarder le visage de son bien-aimé et de désirer parvenir à lui, la passion amoureuse n'aurait pas dominé son cœur. Donc c'est lui qui a été le sabab. Il a dit, s'il ne cessait de yani, regarder le visage de son bien-aimé et de désirer de parvenir à lui, la passion amoureuse n'aurait pas dominé son cœur. La première cause de la passion amoureuse est l'appréciation. Qu'elle naisse du regard ou de lui. Si cela n'est pas accompagné d'un désir d'y parvenir, mais plutôt d'un désespoir que cela puisse arriver, cela n'entraîne pas l'amour fou. Et si cela est accompagné d'un désir, mais qu'il écarte cela de sa réflexion et n'y occupe pas son cœur, cela ne suscitera pas d'amour fou. s'il se met à réfléchir longuement sur les atours de l'être chéri, mais que cela est accompagné d'une peur de ce qui est pour lui plus grand que la jouissance du fait de parvenir à l'être aimé, qu'il s'agisse par exemple d'une peur religieuse, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'entrer en enfer, de susciter la couleur du contraignant et de réunir des péchés, hein, et que cette peur domine le désir et la réflexion, cela ne suscitera pas d'amour fou. S'il manque cette peur, il n'y a pas cette peur, mais que cela est accompagné d'une peur mondaine, quelque chose, une peur de quelque chose de ce bas monde, comme la peur de la destruction de sa personne, ses biens, son honneur, son rang auprès des gens, ou sa déchéance aux yeux de celui qui l'estime, et que cette peur domine ce qui pousse à cet amour fou, il le rejettera. S'il craint de perdre ce qui lui est plus aimé, plus utile que l'être dont il s'était pris, et s'il donne priorité à cet amour sur celui de l'être chéri, il repoussera cet amour fou. Mais si rien de cela ne survient, et que l'amour pour l'être chéri domine, il attire à lui totalement le cœur, et l'âme penche totalement vers lui. Maintenant, Ibn Qayyim dit, si on objecte et on va dire, vous avez mentionné les fléaux, nuisances et méfaits de l'amour fou. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ses bienfaits, profits, parmi lesquels, yani, ici il va dire Ibn Qayyim, yani, ici des gens vont nous dire, d'accord, vous avez parlé de l'amour fou, ses méfaits, ça, ce qui cause comme tort, comme destruction, comme. D'accord, on est d'accord. Mais pourquoi, Ibn Qayyim, vous n'avez pas cité aussi, yani, les bienfaits de l'amour fou? L'amour fou contient des bienfaits. Il dit comme par exemple, la délicatesse, le soulagement et l'allègement de l'âme, la disparition de ses pesanteurs, son divertissement, son entraînement vers des comportements nobles qui sont le courage, la générosité, la civilité, l'affabilité et la douceur. Tout ça, vous l'avez pas cité, yani, comme bienfait de l'amour fou. Ensuite, yani, celui qui a dit ça, celui qui a objecté, va citer quelques paroles et poèmes, etc., de gens, yani, de certaines paroles, etc., qui prouvent que l'amour fou, yani, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Il dit, on a dit à Yahya ibn Mu'adh al-Razi, on lui a dit, ton fils est fou amoureux d'une telle. Ton fils est fou amoureux d'une telle. Il répondit, louange à Allah, afwan, louange à celui qui a fait qu'il soit de nature humaine. Louange à celui qui a fait qu'il soit de nature humaine. Donc ils vont dire, tu vois, yani, celui-là, c'est un savant ou quelqu'un des salafs, mais quand on lui a dit, ton fils est amoureux fou, il n'a pas dit, je vais le frapper, ou je vais ceci, ou je vais cela. Il a dit, alhamdoulilah, que yani, c'est quelque chose de naturel. Il n'a rien fait de grave. Un autre a dit, l'amour fou est la maladie des cœurs nobles. L'amour fou est la maladie des cœurs nobles. Un autre a dit, l'amour fou ne convient qu'à celui qui est doté d'une civilité apparentée et d'une nature pure, ou celui qui est doté d'une langue distinguée et d'une bienfaisance complète, ou celui qui est doté d'un comportement brillant et d'une origine éclatante. Un autre a dit, l'amour fou enhardit le cœur du couard, éclaircit l'esprit de l'imbécile, détend la pomme de l'avare, rabaisse l'orgueil des rois, apaise les comportements farouches, et elle est la proche et la compagnie de celui qui n'en a pas. Et ensuite, il va citer beaucoup de choses. On va les sauter, bi'illahi ta'ala. Donc ici, c'est les preuves de ceux qui ont dit que l'amour fou, yani, fait ceci, fait cela, c'est un bienfait, mais bien sûr, comme vous savez, c'est yani, des contes comme ça, des contes, il n'y a rien de, ni hadith, ni verset, ni rien. Une seconde. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas vraies, même si tu es sur Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, d'une histoire comme ça qui n'est pas vraie, donc je la saute. Il y a aussi quelque chose sur Omar ibn Abdelaziz. Naam, ibn Abdelaziz qui n'est pas authentique. Donc je la saute. Naam. Ensuite, il va citer quelques personnes comme ça connues, comme certains savants, comme quoi on leur a demandé yani, sur l'amour fou, ils ont dit que c'est quelque chose yani, de bien, etc. Non, mais il n'y a rien dans la chaîne de transmission qui montre que vraiment ils ont dit ça. Et si on va supposer qu'ils ont dit ça, non, ça c'est quoi? C'est yani, leur avis. C'est leur avis. Une seconde. Et bon, ensuite, il va citer ici une histoire. Il a dit, ça commence où cette histoire? Il dit, Abdullah ibn Ma'mar al-Qaysi a dit, Abdullah ibn Ma'mar al-Qaysi a dit, une année, j'ai accompli le pèlerinage, puis je suis entré une nuit dans la mosquée de Médine afin de rendre visite à la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que j'étais assis, cette nuit, entre la tombe et la chaire, j'entendis des gémissements auxquels je tendis l'oreille. Puis la voix cessa, et je ne sus d'où elle provenait. Puis les pleurs et gémissements reprirent. Je suis allé trouver l'origine des vers, et leur auteur ne s'en rendit compte qu'alors que j'étais allé à ses côtés. J'ai alors vu un homme dans sa prime jeunesse, dont les pleurs avaient creusé deux sillons sur ses joues. Je l'ai salué, il me dit, assieds-toi, qui es-tu? Il a répondu, Abdullah ibn Ma'mar al-Qaysi. Désires-tu quelque chose? Je lui dis oui. J'étais assis dans le jardin du paradis, entre la chaire et l'appartement du prophète Islam, et ta voix m'a séduit. Non. Que mon âme te soit donnée en rançon. Que ressens-tu? Il a dit, je suis Utba ibn al-Hubab, ibn al-Mundir, ibn al-Jamuh al-Ansari. Je me suis rendu un jour à la mosquée des coalisés, et j'ai accompli la prière. Puis je me suis éloigné non loin, et je me suis trouvé face à des femmes qui venaient d'un pas léger, et au milieu desquelles se trouvait une jeune fille d'une beauté éblouissante et parfaite. Elle s'arrêta devant moi et me dit, ô Utba, que dis-tu du fait d'aller vers celui qui cherche à venir vers toi? Puis elle m'a laissé, elle est partie. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, et je n'ai pu retrouver sa trace. Je suis depuis désemparé et j'erre d'un endroit à l'autre. Puis il cria, s'évanouit. Puis il cria et s'évanouit. Puis il reprit conscience comme si ses pommettes étaient teintes au même cils. Et il dit, je vous vois par mon cœur depuis des contrées lointaines. Me voyez-vous par le cœur malgré mon éloignement? Mon cœur et mon regard vous regrettent. Mon âme est auprès de vous et votre souvenir auprès de moi. Je n'apprécierai la vie que lorsque je vous verrai, même si je suis au Firdaus et au paradis éternel. Je lui dis, ô jeune homme, repens-toi auprès de ton Seigneur et demande-lui pardon pour ton péché, car les frayeurs de l'au-delà sont devant toi. Il a dit, je ne serai jamais réconforté que lorsque les deux tanneurs reviendront. Les deux tanneurs reviendront, expression qui désigne une chose perpétuelle et qui a pour origine la disparition de deux hommes de Anaza, partis chercher du tanin et qui ne sont jamais revenus. Il a dit donc, je ne serai réconforté que lorsque les deux tanneurs reviendront. Je suis resté avec lui jusqu'à l'apparition de l'aube et je lui ai dit, allons à la mosquée des coalisés. Il se peut qu'Allah soulage ton affliction. Il répondit, je l'espère, si Allah le veut, par la bénédiction de ton apparition. La bénédiction de ton apparition. Déjà, il dit que le fait que l'autre apparaisse soit une bénédiction. Nous sommes donc partis jusqu'à parvenir à la mosquée des coalisés, où je l'ai entendu dire. J'ai entendu dire, si seulement ce mercredi, les hommes ne s'étaient pas dispersés pour m'annoncer une réjouissance, telle une gazelle pour laquelle je me consume d'amour, et qui se rend à la mosquée des coalisés le visage voilé, disant aux gens qu'ils cherchent la récompense, mais il n'est pas venu chercher le bien, espérer la récompense. S'il désirait la récompense, il ne serait pas venu en fanfaronnant, enduit de miettes de musc éteint. Puis nous nous sommes assis jusqu'à accomplir la prière du Dhuhr. C'est alors que des femmes sont arrivées, mais la jeune fille n'était pas parmi elles. Elles se sont arrêtées devant lui et lui ont dit, que dis-tu de celle qui cherche à te rejoindre et te rend mélancolique? Qu'en est-il d'elle? Il a demandé. On lui a dit, son père l'a prise et l'a emmenée vers les contrées de Samawa. Je les ai interrogés concernant la jeune fille et elles m'ont répondu, il s'agit de Raya bint al-Ghitrif Sulami. Utba leva la tête vers elle et dit, ma bien-aimée Raya m'a de nouveau devancé. Et sa caravane est partie vers les contrées de Samawa. Ma bien-aimée, mes pleurs m'ont fait perdre la vue. Puis-je emprunter des yeux à un autre? Je lui dis, je suis venu avec beaucoup d'argent que je voulais donner aux pauvres qui ne m'en dit pas. Par Allah, je le dépenserai pour toi jusqu'à ce que tu sois satisfait et plus encore. Alors, allons à la mosquée des Ansar. Nous nous y sommes rendus jusqu'à parvenir devant un groupe d'entre eux. Je les ai salués et ils m'ont répondu de la meilleure manière. Je leur ai dit, aux gens, que dites-vous de Utba et de son père? Ils répondirent, il compte parmi l'élite des Arabes. J'ai dit, il a été frappé par un drame des passions et je veux uniquement votre aide pour nous rendre à Samawa. Nous sommes à ton service, dirent-ils. Nous nous mîmes en selle jusqu'à parvenir aux demeures de la tribu de Sulaym. On annonça à l'Ghitrif notre arrivée et il vint vers nous pour nous accueillir. Il dit, salut à vous, nobles gens. Toi de même qu'Allah te salue, nous sommes tes hôtes. Vous êtes dans la plus généreuse des demeures. Aux gens de Ubaid, installez ces gens. On posa des tapis et coussins, on fit des sacrifices. Hein? Mais nous dîmes, nous ne mangerons que lorsque tu auras répondu à notre requête. Quelle est-elle? C'est quoi votre requête? Nous demandons ta noble fille en mariage pour Utba ibn al-Hubab ibn al-Mundir. La décision de celle que vous demandez en mariage lui appartient, a dit son père. Je vais entrer et l'en informer. Il entra en colère chez sa fille qui lui dit, ô père, qu'ai-je à voir la colère sur ton visage. Les Ansar sont venus me trouver pour te demander au mariage. Ce sont des gens nobles, elle a dit, pour lesquels le prophète Sallam a demandé pardon. Qui me demande parmi eux? Il a dit, Utba ibn al-Hubab. Par Allah, elle a dit, j'ai entendu que Utba respecte ses engagements et qu'il atteint les objectifs qu'on lui fixe. J'ai juré que je ne te marierai jamais avec lui. Car on m'a rapporté que tu lui avais parlé. Cela n'est pas arrivé. Mais puisque tu as prêté serment, les Ansar n'acceptent pas les refus déshonorants. Refuse avec courtoisie. Comment? Elle a dit, demande une dot élevée. Ainsi, ils repartiront et n'accepteront pas. Tu as bien parlé, dit-il. Il sortit promptement et dit, la jeune fille est d'accord, mais je demande une dot d'une valeur égale à ses semblables. Alors, qui s'en acquittera? Abdullah ibn Ma'mar a dit, moi, demande ce que tu veux. Il a dit, je demande 1000 mithqal d'or, 100 vêtements d'étoffe et 5 flacons d'ambre. On lui a dit, tu auras tout cela. Ensuite, ai-je répondu à ta demande? Oui. Alors Abdullah dit, j'ai envoyé un groupe des Ansar à Médine. Ils apportèrent tout ce qui avait été demandé. On fit le repas de noces et nous sommes restés pour cela plusieurs jours. Puis il dit, prenez votre jeune fille et partez unis. Il la plaça sur une litière accompagnée de 30 bêtes chargées d'ustensiles et présents. Nous fîmes nos adieux et nous nous mirons en route. Mais alors qu'il nous restait qu'une étape à parcourir pour arriver à Médine, nous vîmes arriver une troupe qui nous chargeait. Une troupe de guerriers, etc., qui sont venus nous charger et nous combattre. Que je pensais être de Sulaym. Utba se lança contre eux, tua plusieurs hommes, en blessa d'autres, puis revint avec une blessure dont coulait le sang. Il tomba à terre et s'évanouit sur sa joue. La troupe s'éloigna alors que Utba était passé de vie à trépas. Utba est mort. Nous dîmes, ô Utba. Alors la jeune fille nous entendit, se jeta de la chamelle, poussa un cri de couleur et dit en vers. J'ai enduré sans patienter, mais en donnant espoir à mon âme qu'elle te rejoindrait. Si mon âme était juste, elle t'aurait devancé dans la mort. Après toi et moi, personne ne sera un bien-aimé juste et aucune âme ne sera en harmonie avec une autre. Puis elle hurla et passa de vie à trépas. Hurla et mourut. Nous leur avons creusé une seule tombe et les avons enterrés ensemble. Puis je suis revenu à Médine où je suis resté 7 ans. Puis je suis parti vers le Hijaz et suis revenu à Médine. Je me suis dit par Allah, je vais visiter la tombe de Utba. Je me suis rendu sur la tombe et j'y ai trouvé un arbre couvert de bandeaux rouges et jaunes. J'ai demandé aux habitants du lieu, que dit-on de cet arbre? Ils répondirent, on dit que c'est l'arbre des jeunes mariés. Nourim dit, et s'il n'y avait pour permission de l'amour fou que le hadith rapportait avec une chaîne de transmission qui est le hadith de Souaid ibn Sa'id, d'après Ali ibn al-Mushkhir. Al-Mushir, d'après Abu Yahya al-Khattab, d'après Mujahid, d'après Ibn Abbas, qui rapporte que le prophète Hassan a dit, celui qui est fou amoureux, mais reste chaste, dissimule cela et meurt et martyr. Il a dit Ibn Qayyim, s'il n'y avait que ce hadith, ce serait suffisant. Ce hadith, il va l'évoquer à la fin, et c'est un hadith qui n'est pas authentique. On vient d'appeler à la prière, on se rencontre inshallah ta'ala dans une demi-heure. Assalamu alaykoum wa
rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. Alhamdulillah. Donc on s'était arrêté là où Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala, yani certains ont objecté pourquoi vous ne citez pas les bienfaits de l'amour fou, et ils ont cité comme ça quelques poèmes, quelques ceci, quelques cela. On s'était arrêté là-bas. Dans le prochain cours, inshallah ta'ala, Ibn al-Qayyim va réfuter tout cela, bi'idhnillah ta'ala, en montrant, yani, les dalils, que cette chose ne comprend que du mal, bi'idhnillah ta'ala.
Donc, prochain cours, inshallah ta'ala, on entendra la réponse de Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullahi ta'ala. Ensuite, il est possible, entre 50% oui, 50% non, que lundi, il n'y ait pas de cours. Il est possible que lundi prochain, il n'y ait pas de cours jusqu'à mercredi. Wallahu ta'ala alam. Mais il est possible qu'il y ait cours. Vous connaîtrez ça, inshallah ta'ala, en me suivant sur Twitter. Alhamdulillah. Donc, si vous êtes prêts, inshallah ta'ala, on commence par la première question. Tfadal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Tfadal pour la première question.
Jazakallah khairan ya Cheikh. Donc nous allons commencer par la première question. La première question, hayyakumullah, question aqida. Au paradis, il n'y aura plus d'adoration, de religion. Donc est-ce que ce qui était interdit ici-bas sera autorisé, comme la musique, le dévoilement pour la femme, la mixité, etc. Aussi, Cheikh, est-ce qu'on peut intégrer les questions sur la salat comme avant? Jazakallah khairan. Tfadal ya Cheikh.
Donc la question dit, assalamu alaikum, question aqida. Au paradis, il n'y aura plus d'adoration, de religion. Donc est-ce que ce qui était interdit ici-bas sera autorisé? La musique, dévoilement pour la femme, la mixité, etc. Aussi, est-ce que on peut intégrer les questions sur la salat? Non, pour les questions pour la salat, inshallah ta'ala, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour la question, ce qui était interdit ici-bas sera autorisé. Ce qui est interdit ici-bas ne sera pas autorisé. C'est-à-dire, je parle, par exemple, le vol, la zina, la drogue. Ce qui est interdit ici-bas ne sera pas autorisé, mais il y aura le bedil. Il y aura le bedil. Au lieu de la zina ici, il y aura les houris, avec lesquels la personne deviendront, par exemple, ses épouses. Pour la musique, la musique, pas avec les instruments. Et il y aura, par exemple, نعم يوغا اون انتندرا دي اوري نعم كي فون شانتي دي كوم سا كوم دي شانسون دي بوهم ايتترا اي لا ميوزيك كوم سا افيك ديز انسترومون اي لا باتري لا غيتار ايتترا يوغا با سا نعم مي يوغا سولمون سكي حلال اي يوغا لو حلال سورا بوكو بلو فاست نعم كو لا بيرسون نورا با ا شيرشي يعني بور لي شوز كي ايتي حرام ايسي de les désirer, de les désirer là-bas. Tellement il y a de halal bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, elle dit pour le dévoilement pour la femme, la mixité, etc. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que ça soit permis que une femme se dévoile à un étranger au paradis. Non. Ce que je sais, c'est que Allah Ta'ala, déjà en parlant des houris, il a dit qu'elles sont dans une tente. Dans une tente. Et la tente, bien sûr, ce n'est pas la tente yani, qu'on connaît nous. Et il a dit que il a dit qu'elle ne porte le regard que sur leur mari. Donc comment yani, serait-elle sans voile yom al-qiyama? Pour plus de détails, inshallah ta'ala, vous attendez, car j'ai dans l'intention, et ces temps-ci, je ne pense qu'à cela, d'ouvrir un livre sur ce qu'il y a au paradis, qui s'appelle, déjà il s'appelle le paradis. Non. J'ai l'intention de le commencer après avoir fini ce livre de Ibn al-Qayyim, le mal et le remède, et dont il ne reste que 4-5 cours. Wallahu ta'ala alam. Tfadlan.
Jazakallahu khayran ya cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question. Donc question, je pense ça doit être une sœur ou un frère, Allahu a'lam, je ne sais pas par rapport au pseudo. Subhanallah, tout ce que. Donc la personne dit, Subhanallah, tout ce que vous dites, le cours dernier, je l'ai déjà vécu. Je n'étais pas épris de quelqu'un, mais de la dunya et de tout ce qu'elle comporte, astaghfirullah. En effet, je me bats depuis quelques années d'un mal dû à la sorcellerie. C'est difficile pour moi, alhamdulillah, je m'accroche au Coran quotidiennement. Le mal, c'est-à-dire les djinns en moi, font tout pour m'éloigner d'Allah Azzawajal, des cours de Aqidah, etc. J'ai des périodes où petit à petit, sans que je m'en rende compte, je délaisse certaines adorations et je me mets à regarder beaucoup de films turcs, émissions futiles. Et je rechute gravement, c'est-à-dire perte de contrôle de moi, conflit avec la famille, etc. Subhanallah, comme vous dites, ce pourquoi nous avons délaissé Allah Azzawajal se retourne contre nous et nous fait beaucoup souffrir. Alhamdulillah, Allah ne laisse jamais son serviteur. Allah Azza wa Jal ne laisse jamais son serviteur. Dès que je me ressaisis et que je délaisse ces méfaits, je reprends le contrôle de mon esprit et mon cœur qui était mort reprend vie pour Allah Azza wa Jal. Dès que l'on fait des efforts pour Allah Azza wa Jal et beaucoup de dua, il nous facilite. J'arrive à ce moment-là à combattre la sorcellerie et le mal dans mes rêves. Et c'est en réalité réel, ça agit vraiment sur eux. Je ne souhaite pas m'étaler plus, je souhaitais témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration excepté Allah, et que celui qui s'éloigne de lui, c'est-à-dire d'Allah Azzawajal, mène en effet une vie pleine de gêne. Vos cours, chers, sont arrivés au bon moment. J'ai été en pleine rechute. Cela fait maintenant 15 jours que je vous écoute, et je vais déjà mieux grâce à Allah Azzawajal et sa miséricorde. Par sa miséricorde. Je vais déjà mieux grâce à Allah Azzawajal par sa miséricorde. Vous êtes agréable à écouter, masha'Allah. Des doigts pour moi, s'il vous plaît, pour que je guérisse, si vous le voulez bien, tous. Je remercie Allah Azzawajal, car malgré cette épreuve difficile, il est là pour moi et cela me permet de ne pas l'oublier. Courage à tous les éprouvés. Barakallahu fikoum. Donc, le cher, c'est un témoignage et la personne demande des
doigts. Donc, alhamdoulilah, ce que dit la personne, c'est vrai. Il n'y a de bonheur que dans la voie droite. Il n'y a de bonheur que dans celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque dérapage, on le paye. Chaque dérapage, on le paye par une obscurité du cœur, de la gêne, des tourments, de l'angoisse, le cœur qui se serre, la poitrine qui se serre, et comme ça. Et à chaque fois que tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves que c'est le contraire. Le paradis du cœur. La poitrine qui devient, mashallah, la joie dans le cœur, la gaieté, la quiétude, la sérénité, tout ça. Et vous n'avez besoin de personne qui vous dit cela. Vous le vivez. Chacun de nous le vit quotidiennement. Tu n'as besoin même pas d'aller demander ni à un médecin c'est quoi ce que j'ai dans le cœur, ni à un grand savant. Toi, tu le vis tout seul et tu as l'expérience. Non. Fais des efforts pour être sur la voie droite. Tu vas voir comment tu vas te sentir la personne la plus heureuse. Non. Maintenant, fais des efforts pour aller de l'autre côté et pour assouvir les passions. Tu vas voir comment tu vas te sentir la personne la plus malheureuse en ayant tout, en ayant la richesse, en ayant la beauté, en ayant le haut statut dans la société, en étant la plus riche, en étant la star. Tu vas voir comment tu vas te sentir, yani vraiment la plus malheureuse. Naam. Alhamdoulilah, ça, c'est un témoignage que porte ici la personne. Alhamdoulilah. Et quant à ce que dit la personne, que ce que je dis, moi, etc., tout ça, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, moi, Allah ta'ala m'a donné cette chose que je fais mon maximum pour être au naturel. Je n'essaye pas de choisir les mots, de choisir quels sont. Je parle naturellement. Je parle ce que j'ai dans le cœur, je le dis. Je le dis. Et Allah ta'ala m'a donné un deuxième atout. C'est lui qui me l'a donné. Il vient pas de moi. Que j'ai été déjà enseignant pendant des années, au moins 30 ans. Enseignant au lycée, au CEM, à la fac et dans le masjid, imam. Imam pendant des années et enseignant pendant des années. Donc Allah Ta'ala m'a donné cet atout que yani, j'ai l'habitude d'être avec les gens et de leur parler, de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut avancer, ce qu'il faut retarder. Tout ça, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Elle vient pas de moi, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadla, inshallah ta'ala, pour la deuxième question. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il aide cette personne à se relever de sa chute et qu'il nous aide nous tous, na'am, et qu'il nous ouvre ses portes de l'agrément et de sa miséricorde et qu'il nous fasse yani, oublier yani, qu'il nous fasse éloigner des passions et de cette dunya qui, comme a dit le prophète, il a dit la dunya est maudite et tout ce qu'elle comporte, il a dit sauf alim, un savant, ou muta'allim, ou bien étudiant, là, celui qui apprend, ou bien la mention d'Allah et ce qui lui ressemble. Sinon, tout est maudit, comme vous le savez, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite le bien. Tafadhal.
Amin. Jazakallahu khayran, mon cher. Astaghfirullah, ya Rabbi. Donc, on va passer à la troisième question. Question d'une sœur qui demande, cher qu'Allah ta'ala vous récompense pour vos efforts dans le sentier d'Allah azza wa jalla. Concernant les hadiths expliqués précédemment, quand il est dit, il ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire quoi? Barakallahu fik, cher. Jazakallahu khairan. Tafadhal, cher.
Naam, quand le prophète sallam dit d'une chose que celui qui l'a fait ne fait pas partie des nôtres, ça veut dire, yani, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire qu'il a fait un grand péché. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ça veut dire que cette personne, qu'elle fasse attention, elle est en train de faire un grand péché. Elle n'est pas sur mon chemin. Naam, moi, le prophète alayhi sallam, et ceux qui me suivent, les sahaba, on ne fait pas cette chose. On ne fait pas cette chose. Naam, on se désavoue de cette chose. Donc ça veut dire automatiquement que la personne est en train de faire un grand péché. Alors qu'elle fasse attention et qu'elle s'en éloigne bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadal pour la troisième question.
Non, mon cher a raison, puisque la deuxième n'était pas une question, c'était juste un témoignage. Donc, nous allons passer à la troisième question. Question d'une sœur qui demande, Donc, question sur la croyance concernant le destin. Quelle est la part de libre arbitre sur laquelle on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées? J'ai du mal à comprendre cette notion. Donc, elle ne comprend pas la notion du fait qu'on sera jugé quand nos actions nous sont déjà prédestinées. J'ai du mal à comprendre cette notion. Jazakallahu khayran et cher pour votre temps. Vous êtes d'une grande aide et d'un grand soutien. Qu'Allah, Azza wa Jal, vous récompense en bien, ainsi que les admins qui nous facilitent les échanges. Jazakallahu khayran, cher.
Le questionneur n'a pas dit si c'est un frère ou une sœur. Mais pas de problème. Dans les deux cas, on doit répondre, inshallah ta'ala, à cette ambiguïté. Un moyen. La personne n'arrive pas à concilier, si je puis dire, une sœur. La personne n'arrive pas à concilier entre, comment d'un côté. Allah Ta'ala a tout écrit sur la tablette préservée. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Tout écrit, tout. Et déjà, quand notre mère est enceinte de nous, à l'âge de 4 mois, Allah Ta'ala déjà envoie un ange pour écrire, yani, c'est un garçon ou une fille. S'il est malheureux ou il sera heureux, yani, ses œuvres, sa subsistance, son risque. Donc, la personne a raison de dire, moi je ne comprends pas comment d'un côté tout est écrit et de l'autre, yani, où est le libre arbitre? Ici tout est écrit. Donc, pourquoi on sera jugé pour des choses qui ont été déjà écrites? Alors, je dis à la personne, ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, car cette chose, je l'ai expliqué des dizaines de fois, et peut-être la personne est nouvelle avec nous, je dis, et juste, avant de dire ça, juste, il y a un petit test. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nous ici dans le salon, avec nous, qui pourrait nous résumer en une phrase ou deux comment répondre à cette personne? Il y a toutes les personnes qui disent ça, qui disent comment c'est écrit sur la tablette préservée, tout ce qu'on va faire, et de l'autre côté, comment on va être jugé pour les choses qu'on fait nous. Est-ce quelqu'un, yani, en deux lignes, Mahmoud peut, tayyib, tfadlal. Et encore mieux, puisque tu peux, alors yani encore mieux par micro. Pour gagner du temps, bi'idhna ta'ala. Tfadlal, inshallah ta'ala. Prends le micro.
C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal savait tout ce qu'on allait faire, puisque c'est notre créateur. Et maintenant, on est en train de le vivre pour que ce soit une preuve contre nous. Wallahu a'lam. Tfadlal, les chers.
Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a tout écrit sur la tablette préservée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas lui qui a choisi d'écrire ce qu'il veut, Azza wa Jal. Mais, il a écrit ce qu'il a su que tu allais faire. Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée tout ce qu'on allait faire par détail, non pas parce qu'il nous a forcé à faire ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire, mais tout simplement parce qu'il a su. Naam, ilmuhu. Sa science, yani, s'est étendue sur toute chose. Rien ne lui échappe. Avant de nous créer déjà, et avant de créer le monde, 50 000 ans avant de créer le monde, il a su, voilà toutes les créatures qui vont naître. Naam, y compris nous, entre autres, yani, nous qui sommes sur ce salon. Et les animaux, et les insectes, et les poissons, et les mouches, et les. Tout ce qui va, yani, être créé, et ces créatures, tout ce qu'elles vont faire par détail. Donc, par rapport à nous, il a écrit, voilà, yani X, par exemple, moi, Mohamed Chalabi, voilà, il va naître tel jour, à telle seconde, il va mourir tel jour, à telle seconde, et entre ces deux dates, voilà ce qu'il va faire par détail. Mais, il ne m'a pas forcé à faire ça. Il ne m'a pas dit aussi de le faire, et il ne m'a pas poussé à le faire. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà ce qu'il va faire. Tel jour ceci, tel jour cela. Il va boire ceci, manger cela, dire ceci, aller à tel endroit, faire ceci, cela. Donc, Naam, Yom al-Qiyama, Naam, Yani, il va te juger pour ce que tu as fait. Et il ne t'a pas dit de le faire si c'est quelque chose de mauvais. Il t'a même interdit de le faire, interdit de boire l'alcool, interdit de faire la médisance, t'a interdit de voler, interdit de faire la zina, interdit de calomnier, interdit ceci, cela. Et c'est toi qui l'as fait. Et ces choses-là, tu les as faites. Donc, c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Et tout le bien que tu as fait, c'est par son aide. Il a envoyé des messagers pour nous avertir, fait descendre des livres et tout ça pour t'aider, pour que tu fasses pas ces choses. Et quant au bien que tu fais, ça vient de lui. Toute ni'ma, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute chose mauvaise, ça vient de toi. Et de ton nefs, et ton shaitan, et de tes passions. Non. Donc, et ce que je dis toujours aussi, il faut rappeler aussi ça, ce que je dis toujours, c'est que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il n'aurait rien écrit sur la tablette préservée jusqu'à ce qu'on fasse tout et qu'on meure. Quand tu meurs, alors il écrit. Il dit aux anges, écrivez, voilà sa vie, voilà, j'ai sa vie ici. En détail, écrivez, Yom Kiyama, montrez-lui ce qu'il a fait. Allah Ta'ala aurait pu faire cela. S'il avait fait cela, donc il n'y aurait pas de problème. Il ne t'a rien forcé à faire. Il a écrit après quoi? Après que tu sois mort. Quand la personne est morte, il a demandé aux anges d'écrire tout ce qu'elle a fait. Donc, dans ce cas, il n'y aurait aucun problème. Mais Allah Ta'ala a voulu écrire, non seulement avant que tu ne naisses, mais avant qu'il ne crée les cieux, la terre et le monde, 50 000 ans avant, il a tout écrit. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait que c'est exactement ce que tu vas faire. Il aurait pu attendre à ce que tu fasses, mais comme il est sûr, Naam, et comme il est Yanni, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a la science parfaite, il sait tout. Donc il a écrit d'avance, c'est tout. Sinon, comme j'ai dit, il aurait pu laisser jusqu'à ce que tu fasses. Et mieux que cela, Allah Ta'ala aurait pu nous créer directement, on se trouve le jour de la résurrection, directement. C'est pas la peine que tu vives dans cette vie. Et il dit, voilà, toi, ce côté, au paradis. Toi, en enfer. Tu vas dire pourquoi? Bon, ceux qui vont aller au paradis, c'est sûr, vont pas dire pourquoi. Alhamdulillah. Et ceux à qui il va dire allez en enfer, ils vont dire pourquoi y a Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur dire parce que je sais d'avance que si je vous avais fait passer par la vie d'abord, le bas monde, vous n'auriez fait que yani du mal, ou bien votre mal serait plus grand que le bien. Donc vous méritez l'enfer. Tout le monde va dire non ya Allah, non, smahdi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Smahdi, mais moi, je me connais très bien. Moi, si vous m'aviez fait passer par le bas monde, je serais pas sorti de la mosquée. Et tous les biens que j'ai, je les ai redonnés, fsabillah. D'ailleurs, je serais mort, même en martyr. Naam. Ya Allah, moi, je me connais bien, je suis comme ça. Naam. Donc, tout le monde n'acceptera pas, yani, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent de nous qu'on aille comme ça en enfer. Et chacun voudrait yani, dire que la preuve n'a pas été établie. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas yani, et n'accepte pas que quelqu'un établisse sur lui la preuve, donc il a fait de sorte que qu'on vive cette vie pour que Yom al-Qiyam, ce soit lui qui établisse sur toi la preuve et qui te dise tu vois. Non, regarde ce que tu as fait tel jour, regarde ce que tu as fait telle minute, regarde. Non, sinon cette vie, c'est rien, elle est maudite comme j'ai dit tout à l'heure. Non, sauf ce qu'il a cité dans le hadith. L'essentiel, c'est l'au-delà. Mais il a voulu Allah Ta'ala pour établir la preuve sur nous que nous vivions d'abord, non, pour te montrer Yom al-Qiyama, inscrit sur ton livre, voilà ce que tu as fait. Donc c'est nous qui faisons le mal. Et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de le faire, et encore moins qui nous a forcé de le faire. Demande à cette sœur si elle a compris. On continue, on passe à l'autre question. Si elle n'a pas compris, je réexplique. Tfadal. Car c'est très important. Sinon, on va vivre avec des ambiguïtés et dire, c'est Allah qui a écrit que je boive l'alcool, donc pourquoi il va me faire entrer en enfer. Tfadal. J'attends sa réponse.
Jazakallahu khairan, mon cher. Donc, Fawzi, si tu peux nous tenir au courant, barakallahu fik. Si la personne a compris, tu nous le... nous l'écrit sur la room. Donc, cher, si vous le permettez, je vais passer à la question suivante. Question numéro 4. Le temps que Fawzi demande. Donc, question numéro 4. Cher, qu'Allah vous bénisse et vous accorde le Firdaus ainsi que tous les admins. Donc, il n'y a pas de. Je pensais que Fawzi avait écrit. J'aimerais que vous me donniez un conseil pour réformer davantage ma patience face aux fitnas des femmes qui s'exhibent, car j'ai peur de tomber dans un amour qui pourrait être fou, comme le cas du Mouadine que vous avez cité dans le cours. Je rappelle que je suis un étudiant, donc je suis fortement exposé aux fitnas des femmes. D'autant plus l'été tire sa fin, donc les habillements des femmes seront encore plus difficiles à... Bon, il voulait dire d'autant plus que l'hiver tire sa fin, donc les habillements des femmes seront encore plus difficiles à supporter. Alhamdulillah, je fais des efforts pour baisser le regard. Fadal le cher,
Naam, peut-être tu m'as pas bien entendu, Mahmoud, mais j'avais dit que je ne répondrai pas à la prochaine question jusqu'à ce que je sache ce que la personne a répondu. Donc on attend que Fawzi nous rende la réponse. Tu n'as rien reçu. Regarde si la personne est avec nous dans le salon. Regarde si la personne est avec nous dans le salon. Non, je te demande pas d'attendre sa réponse. Je te demande de voir si la personne est dans le salon. Sauf si tu sais pas c'est qui, c'est autre chose. Naam. Tayeb. Alors, contacte-la. Naam. Dis-lui, c'est quoi ta réponse? Compris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Car c'est très important. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de musulmans, des millions, ne comprennent pas jusqu'à de nos jours pourquoi, d'un côté, Allah Ta'ala a tout écrit, ensuite, on peut rentrer en enfer, à cause des choses qui sont écrites contre nous. Naam, Fadlal. Donc, pour Mahmoud, si c'est possible de répéter la question, Fadlal.
Donc, cher, par rapport à ce que la réponse que vous avez donnée là, par rapport au destin, il y a une personne qui demande, si vous me permettez. Donc, vous avez dit que c'était très important, et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens divers sont devenus des sectes par rapport à ça. Il demande, donc, salam alaykoum, par rapport au qatar que le cher vient d'expliquer. Le fait qu'Allah Azzawajal quitte qui il veut et égare qui il veut, est-ce que cela rentre là-dedans? Tfadal le cher.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fait qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut, et ça aussi il y a un verset, beaucoup de versets en ce sens, là aussi beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur. Et beaucoup de musulmans, sans parler des kofars, tombent aussi dans cette erreur et ne comprennent pas. Que ça veut dire Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut. Et comprennent par le fait que Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut, comprennent que c'est une question donc de loterie. Il y a 4 milliards de personnes qui vivent maintenant, et toi, Allahu A'lam, de quel côté tu es? Est-ce que tu es tombé sur ceux que Allah Ta'ala guide? Alors, Alhamdulillah. Et si tu es tombé de l'autre côté sur qui Allah Ta'ala veut égarer, et qaddar Allah ma shafa'a, c'est de la loterie. C'est de la loterie. Donc, beaucoup aussi comprennent les choses comme ça. Alors que ça, c'est faux. Non. Allah Azza wa Jal guide qui il veut, bifadlih, de par sa grâce. Et égare qui il veut, bi'adlih, de par sa justice. Non. Et non pas, comme ça c'est venu, par hasard, comme ça, loterie. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains, qui ne comprennent pas bien ça. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani égare des gens qui sont masha'Allah. Des gens qui sont masha'Allah et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, ils aiment l'islam, ils font des efforts, ils prient la nuit, ils jeûnent, yani surérogatoire, ils salat al-duha, ils nawafil, et Allah subhanahu wa ta'ala les égare. Non, ils n'ont rien fait, mais Allah ta'ala les égare alors qu'ils font des efforts jour et nuit. Et Allah ta'ala guide qui il veut. Quelqu'un qui n'insulte, qui n'arrête pas d'insulter l'islam, qui n'arrête pas de se moquer des musulmans, et qui n'arrête pas naam, de dire des gros mots à Allah ta'ala et ceci, et il le guide. Naam. Donc beaucoup comprennent les choses comme ça, alors que les choses ne sont pas comme ça. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans un hadith Qudsi authentique, il a dit, ya ibadi, kullukum dal, oh mes créatures, vous êtes tous dans l'égarement, sauf celui que je guide, illa man hadayta, hadayt. Ensuite il a dit, fad'ouni, ou fastahdouni, ahdikum, demandez-moi la guidance, naam, ou la guider. Demandez-moi, je vous la donne. Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs. Que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? S'il voit d'elle qu'il y a du bien, hein, qu'elle cherche à guider, qu'elle cherche à avancer, qu'elle cherche à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle cherche son paradis, Allah subhanahu wa ta'ala la guide, l'aide. Naam. Il voit dans une autre personne, dans son cœur, que cette personne, c'est le contraire. Naam. Elle cherche yani, le mal. Elle cherche à combattre l'islam. Elle cherche à... Il la laisse dans l'égarement. Il ne la guide pas. Naam. Il ne la guide pas. Il les laisse dans leur tyrannie. Naam. Obscurité sur obscurité. C'est pour ça qu'il y en a qui ont de l'orgueil. Il les aide pas. Il ne les guide pas. Naam. C'est pour ça que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'a authentifié Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit que Allah ta'ala a vu ou l'a regardé dans les cœurs des créatures. Il a trouvé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur cœur. Alors il l'a pris sallallahu alayhi wa sallam pour messager. Ensuite il a vu encore une fois dans les cœurs des créatures. Il a trouvé que les sahaba, ce sont eux qui avaient les meilleurs cœurs après le prophète Al-Slam. Alors, il les a guidés et a fait d'eux les ministres et les plus proches yani, du prophète Al-Slam. Il a fait d'eux les sahaba. Et comme ça. Donc, pour que Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut, c'est d'après ce que toi aussi tu fais. Est-ce que tu fais des doigts pour Allah Ta'ala? Est-ce qu'il y a dans ton cœur le bien? Est-ce que tu essaies d'avancer? Et c'est comme ça. Et s'il voit Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur qu'il y a du mal et que tu... C'est pour ça, je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des gens, naam, qu'on voit pour nous, ils sont très mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Ensuite, les voilà devenus croyants et parmi les meilleurs des croyants. Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala, naam. Avant sa tauba, qu'il embrasse l'islam. Yani, combien qu'il a tué de sahaba? Combien qu'il a tué de meilleures créatures? Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait avant la tauba? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Pourquoi? Non. Il a vu dans son cœur que, yani, par rapport à Khalid ibn al-Walid, il a vu dans son cœur que, yani, il voulait chercher la vérité. Qui passait des nuits pensifs. Naam. Est-ce que celui-là c'est Mohammed al-Islam? Est-ce que c'est un prophète? Peut-être qu'il a raison, peut-être c'est lui. Il a commencé à sentir dans le cœur des choses. Il a peut-être même demandé yani, que Allah Ta'ala lui montre. Peut-être. Allah Ta'ala l'a guidé. On remarque le contraire. On voit quelqu'un par exemple qui est Mashallah en Islam. Hein? Mashallah. Ensuite, hop, yani, il quitte l'islam, il apostasie. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala a vu dans son cœur aussi que yani, il n'était pas yani, ravi de cet islam. Non. Il n'a pas accepté avec apaisement. Même dans son cœur, il critiquait. Il dit, c'est quoi cet islam qui m'a empêché de tout et qui maintenant je suis enchaîné alors que tout était permis, je faisais tout, je profitais. Et maintenant cet islam que j'ai embrassé, c'est plus permis la fornication, c'est plus permis l'alcool, c'est plus permis que c'est quoi cet islam? Ça c'est dans le cœur. Et peut-être même qu'il a commencé à critiquer avec les intimes. Il dit, wallah, je suis en train de perdre de temps, mais... Alors, ensuite on entend qu'il a quitté. Il a quitté, il est devenu un ennemi juré de l'islam. Il a apostasé. Naam, Allah Ta'ala l'a égaré. C'est pas pour rien. C'est pas parce que il cherchait jours et nuits à avancer que Allah Ta'ala l'a égaré. Ma'ad Allah. Allah ne fait pas ça. Ma'ad Allah. Allah est le juste. Comment il égare quelqu'un sans raison? Naam. Ne vous étonnez pas si vous voyez quelqu'un qui a apostasié. Et attention à ce que vous croyez une seconde que Allah Ta'ala lui a été injuste avec lui. Attention. Attention. Naam. Mais c'est cette personne qui mérite ce sort. Il mérite même plus. Naam. Je ne sais plus où on était. Tfadl.
Donc vous avez répondu à la question du frère qui demandait par rapport le fait d'être guidé, de ne pas être guidé. Alhamdoulilah. Donc on va passer à la question, on va revenir aux questions du cours, par Allah. Donc, question du cours, question numéro 4, question d'un frère qui demande, cher qu'Allah vous bénit et vous accorde le firdaus ainsi que tous les amines. Amin, ya Rabbi. J'aimerais que vous me donniez un conseil pour réformer davantage ma patience face aux fitnas des femmes qui s'exhibent, car j'ai peur de tomber dans un amour qui pourrait être fou, comme le cas du Mouaddin que vous avez cité dans le cours. Je rappelle que je suis un étudiant, donc je suis fortement exposé aux fitnas des femmes. D'autant plus, l'été tire sa fin. Donc, les habillements des femmes seront encore plus difficiles à supporter. Et, alhamdulillah, je fais des efforts pour baisser le regard. Fadal al-Sheikh, wa jazakallah wa khayran.
Mahmoud, est-ce que dans la question tu as dit que, d'autant plus que l'été tire à la fin? Est-ce que tu as dit ça? Tire à sa fin, ça veut dire que c'est bientôt sa fin. L'été. Mais on n'est pas en été. À moins que cette personne, elle a posé la question en été, elle est arrivée maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'été tire à sa fin? C'est l'hiver peut-être qui tire à sa fin et c'est bientôt l'été. Mais on n'est pas en été pour que l'été tire encore. Ah, ça dépend dans quel pays il est. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai pas fait attention. Il se peut qu'il soit dans un pays où maintenant ils sont en été. Ça, c'est vrai. Comme en Malaisie ou je ne sais où. Ça. Donc la personne a peur des fitnas de la femme, etc., etc. Je dis, le prophète alayhi sallam a dit qu'il n'a pas laissé pour sa nation de fitna plus grande pour les hommes que les femmes. Il n'y a pas dans la nation du prophète sallallahu alayhi sallam pour l'homme, il n'y a pas de fitna plus grande que la femme. C'est pour cela que la femme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, quand elle sort de chez elle, elle doit toujours mettre dans sa tête et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle ne soit pas une fitna pour l'homme. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna alladina fatalu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu al-hariq wa lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu al-hariq. Une seconde, je vous montre ce verset et je vais voir ce qu'il donne en français. J'écris là, j'écris le harik, je vais voir qu'est-ce qu'il donne, le harik. Donc c'est pas ça. Voilà, ce verset ici. Dites-moi si ça s'affiche. Oui, alhamdoulilah. Inna alladina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adabu jahannam wa lahum. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer. Ceux qui font des fitna aux croyants et aux croyantes, comme ça dit le verset. Ceux qui font des fitna aux croyants et aux croyantes. Sortir le matin de la maison ou la sortir de la maison, non, en s'habillant de façon à ce que je sois une fitna pour l'autre. Si je suis une femme, pour que je sois une fitna pour l'homme. Et si je suis un homme, pour que je sois m'habiller et faire de sorte pour que je sois une fitna à la femme. Alors ceux-là, s'ils ne se repentent pas, qu'est-ce qu'ils auront? Le châtiment de l'enfer. Ils supplient du feu. Ils rentrent dans ce verset. Une fois, quand j'étais au Koweït, je connaissais quelqu'un qui était un Syrien. C'est un Syrien. Il était, mashallah, très beau. Très beau. Et en plus de cela, il se coiffait d'une façon et s'habillait d'une façon aussi vraiment, yani fitna. Une fois, je lui ai dit, écoute, il faut pas oublier une chose. Déjà, lui-même, il me disait, de temps en temps, yani, une femme, ou là, une Koweïtienne, ou là, une Syrienne, ça dépend beaucoup, gars. Il me dit, elles viennent voir moi et elles me disent, est-ce que tu veux pas te marier, ceci, cela. Je lui dis, écoute, je te dis une chose. J'ai peur pour toi, tu rentres dans ce verset. Je lui ai cité le verset. Toi, tu sais que tu es beau. Et ensuite, tu vas te coiffer de la meilleure façon et t'habiller de la meilleure façon. Ensuite, dire pourquoi les femmes viennent vers moi et pourquoi elles me disent si tu veux te marier ou si tu veux qu'on aille se promener ou je ne sais quoi. Toi, le premier, tu ne fais pas attention à toi. C'est-à-dire au contraire, tu fais beaucoup attention à toi et ma preuve, tu es une fitna pour les autres et pour celles qui travaillent avec toi. Donc, il faut savoir que et faire de sorte que je fasse mon possible pour que je ne sois pas une fitna pour les autres. N'importe où je suis. Dans la rue, là où je travaille, dans le bus, il ne faut pas que je sois une fitna pour les autres. Je veux dire pour le sexe opposé. Mouhim. Je dis à cette personne qui a posé la question, il faut faire beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala et prendre des causes. Comme par exemple, jeûner. Car jeûner beaucoup, la nafila, ça casse et ça brise la shahwa. Ça brise la shahwa et la personne maintenant est occupée par la faim qu'il a et les contractions qu'il a dans le ventre. Il est occupé de cela plutôt que de s'occuper des autres et de voir les femmes, etc. Ensuite, étant étudiant comme ça à la fac, et peut-être ne pouvant yani arrêter les études, et peut-être qu'il y a des pressions, peut-être, je ne sais pas. Chacun il vit ses propres comment on dit, conditions. Donc dans ce cas, faut voir comment éviter le maximum de parler avec les femmes, comment éviter le maximum de s'asseoir avec elles ou là devant elles, éviter le maximum de porter le regard sur elles. Et comme ça. Et éviter le maximum d'aller assister aux cours quand ce n'est pas obligé. Alors, il y a des fois des cours qui sont pas auxquels on n'est pas obligé d'assister. Des fois, dans les TD, on marque les absences. Et comme ça, il y a des cours où on marque pas des absences à l'envi. Dans ce cas, je n'assiste pas. Mais je demande seulement à quelqu'un qui a assisté de me donner des polycopes pour recopier, c'est tout. Non. Et comme j'ai dit, de faire beaucoup de doigts et de prendre des causes, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit de quelqu'un qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et éloigne de lui, refoule de lui, yani les mashakil bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah ta'ala t'aide. Tfadbal.
Amin. Jazakallah khairan, cher. Donc nous allons passer à la cinquième question. Cinquième question. Ma question concerne deux cours précédents, l'un sur la langue et l'autre sur la fornication. Ma question est à partir de quand la médisance commence? Cela concerne-t-il aussi les mises en garde? Fadali Yachir.
Tu as dit que la question portait sur la médisance et la fornication. Il n'y a pas ici la fornication, puisqu'il a posé la question sur la médisance. Où est la fornication? Ça y est, malish. Il n'y a qu'une, malish. Une seconde. Donc, ma question concerne deux cours présents. Ma question, à partir de quand la médisance commence? La médisance commence à partir de quand je parle de quelqu'un d'une chose qu'il déteste, qu'il déteste entendre, À condition quoi? À condition que cette chose, naam, ou là, que quand je parle de lui, ça ne soit pas permis. C'est-à-dire, quand c'est permis que je parle de quelqu'un, naam, même si c'est quelque chose qu'il ne veut pas entendre, ça ne devient plus médisance. Je donne un exemple. À chaque fois que, ou plusieurs fois, ça m'est arrivé, c'est un exemple, hein, ça m'est arrivé, yani, de surprendre quelqu'un, yani, la nuit, sans qu'il ne sache lui. Je le vois, par exemple, avec un petit couteau comme ça, en train d'ouvrir, yani, les voitures. Je regarde du balcon, de la fenêtre, il ne me voit pas derrière le rideau. Et je sais que cette personne, et je la connais, quelqu'un du quartier, avec un couteau, chaque fois, il ouvre, yani, les portes des voitures pour voler la radio, pour voler ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, cette personne, yani, le lendemain, si moi je vais dire aux gens, attention, X, tam, c'est la troisième ou quatrième fois que je le vois la nuit, yani, en train de voler, de défoncer les portes des voitures, ils vont dire, c'est vrai, on a remarqué, moi, on m'a volé mon poste, l'autre, il a dit, on m'a volé ceci, cela, mais on ne sait pas c'est qui. Cette personne, c'est sûr qu'elle n'accepte pas que je dise comme ça d'elle. Hein? Elle dit, parle de moi, en mon absence, c'est de la médisance. Mais, maintenant c'est le contraire. Si maintenant je ne parle pas, et je laisse cette personne faire comme ça, naam, et je la dévoile pas, c'est maintenant que j'ai des péchés. Sauf bien sûr si quoi? Sauf si je me tais à cause de, yani, cette personne, yani, m'a vu, que je l'ai vu, et m'a envoyé des menaces, et j'ai peur qu'elle m'égorge, et ceci, cela, ça c'est autre chose. Non. Donc, notre din, yani, comporte la aqida, comporte tawhid, comporte faire, comporte, et comporte aussi, non, ordonner le bien et interdire le mal. Maintenant, si c'est obligé pour toi de dire aux gens, attention, cette personne-là, yani, c'est un voleur. Cette personne-là, c'est un escroc. Pour que les autres gens ne tombent pas dans son piège. Il m'a escroqué 3 ou 4 fois. Non. Et ensuite, j'ai appris qu'il fait ça avec beaucoup de gens. Et maintenant, je sais qu'il est venu chez mon voisin pour lui dire, s'il te plaît, prête-moi 200 euros et je vais te les rendre dans un mois et 2 mois. Alors que moi, il m'a fait ça. Et il a fait à un autre, à X, à Y. Et maintenant, si je ne dis pas à mon voisin, attention, celui-là, c'est un escroc. Il fait ça. Donc, ça veut dire, il va lui prendre 200 euros. Ou 2000. Maintenant, si je ne parle pas, je ne lui montre pas à mon voisin, j'aurai des péchés. Pourquoi? J'ai laissé une personne le voler. Et le vol est interdit. Et j'aurai, maintenant, si je lui dis, il ne me croit pas. Il me dit, non, c'est pas vrai, moi, je lui donne, je le connais, c'est une bonne personne. Khlas. Devant Allah, ma responsabilité, c'est terminé. Mais, que tu vois le mal comme ça, et que tu te taises, tu deviens un shaitan akhras, un shaitan muet, comme disent les savants. Ça, c'est dans la dunya. Donc, il veut voler celui-là, il veut escroquer celui-là, il veut tromper celui-là. Non, ça, c'est dans la dunya. Qu'en est-il maintenant, si ça a rapport avec le din, ça a rapport avec l'akhira? Ce rapport avec l'enfer, le paradis et l'enfer, naam. Cette personne, naam, est en train d'apprendre aux gens des choses fausses dans la aqida. Elle est en train de leur apprendre l'i'tizal et l'ash'ariya et le habashisme, ahbash, et le wahdat al-wujud et le... naam. Une seconde, Anidia.
Je disais, alors comment, si c'est par rapport à l'akhira, si c'est par rapport à l'akhira. Ensuite, yani, si vous avez remarqué, moi et toi, et bien sûr, nous, quand on parle de gens, nous sommes tous seuls. Voilà.
Maintenant, je crois qu'il n'est pas faible, ça. Maintenant, il est bien, ça. Voilà. Et puis, nous, quand on parle de gens, on dit, il faut pas écouter l'Arifi. Il faut pas écouter Mohamed Hassan. Il faut pas écouter Amr Khaled. Il faut pas écouter X et Y. Non. Si vous avez remarqué, ce n'est pas nous qui avons inventé ça de notre tête. Est-ce que moi j'étais comme ça assis, ensuite je viens, je prends le micro, je dis, il ne faut pas écouter Mohamed Hassan ou là. Est-ce que j'ai inventé ça de ma tête? Ce sont les grands savants qui ont dit ça. Si tu as un problème, va leur demander à eux. Dis-leur pourquoi vous avez dit ça. Mohamed Hassan, c'est une bonne personne. Pourquoi vous l'avez critiqué? Si tu penses comme ça de lui, va leur dire à eux. Est-ce que moi j'ai inventé comme ça des choses de ma tête? Ce sont les savants, les héritiers du prophète qui ont dit ça. Les héritiers du prophète. Le prophète Hassan est mort et les a laissés. Les a laissés, n'am, yani comme héritier à sa place. Subhanallah l'adem. Donc comment je ne les suis pas? Et si je ne suis pas eux, qui je vais suivre? Et ensuite, il y a autre chose. Le problème, bien sûr qu'ils donnent des preuves. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ceux-là, les grands savants, s'ils te disent, faut pas écouter X ou Y, est-ce que c'est par jalousie, par hasad, ou bien au contraire, par shafaqa, par miséricorde envers nous? Parce qu'ils savent que si on va les suivre, il va y avoir des déviances dans notre dîn. Naam. Donc c'est par, yani, par rahma, par shafaqa. On leur fait de la peine. On leur fait de la peine. Ils veulent notre bien. Ils veulent nous sauver. Ils nous veulent le paradis. Ils veulent nous éloigner de l'enfer. Naam. Ensuite, comme j'ai dit à certains gens, qui, ce sont des débutants, des johal ou là, je ne sais pas quoi, qui ne savent pas, donc ça, c'est pas de la médisance. Mais il y en a d'autres qui sont plus dangereux que quoi, qui ils voudraient que tu taises et te dis ça, c'est de la médisance. Pourquoi? Parce que, naam, ils disent, si on les laisse parler, ils vont les dévoiler. Ils vont dévoiler cela. Ils vont dévoiler leur bida. Donc, il y en a pour que tu ne parles pas, ils te disent, écoute, tais-toi. Ça, c'est de la médisance. Il ne faut pas parler sur eux. Naam, ils sont en train de parler dans le din. Ils disent, khalallah, khalallah, comment tu parles d'eux? Il faut parler sur les voyous, sur les voleurs. Pas sur ceux qui disent, Allah Ta'ala a dit et son messager a dit. Ils nous ont dit, ça, c'est plus grave. Naam. Celui-là qui part dans le din et qui te dévie du chemin est plus grave que le voleur, est plus grave que le calomniateur, et comme ça. Parce que l'autre, il a rapport avec la dunya. Et celui-là, il a rapport avec le din. Il touche mon din. Il touche mon paradis. C'est ça ce qui est grave. Non. Donc, je dis, tous les savants sont unanimes pour dire que ça rentre pas dans la calomnie et la médisance. Ça rentre pas dans la médisance. Quatre ou cinq choses, et entre autres ça. Le fait d'aller témoigner, le fait d'aller porter plainte contre quelqu'un, le fait de parler d'un rapporteur du hadith et de dire que il est faible, ou de dire il est moudadlis, ou de dire de lui c'est un menteur, ou de dire de lui c'est un matrok, on prend pas de lui, et comme ça. Les savants sont unanimes pour dire que c'est permis de parler en ces choses, et que c'est même obligé de parler en ces choses, en ces gens, mais il n'est pas là. Tfadlal.
Jazakallah, khairan, mes chers. Donc nous allons commencer. Nous allons continuer avec la question numéro 6. Question numéro 6, question d'une sœur qui demande, Cheikh Anna Hafidakumullah, je souhaiterais une petite nasiha de votre part, Inch'Allah. J'ai arrêté les études depuis peu et je ne souhaite pas travailler pour des raisons que vous connaissez, Inch'Allah. Et cela suscite une incompréhension de la part de ma famille qui me disent que dans le Coran, il est dit que devons étudier la science. Lorsque je leur dis qu'il s'agit de la science islamique, Sharia, Aqidah, Fiqh, etc., on me dit que non, il faut la physique, la médecine, les maths, etc. Quelle réponse dois-je leur apporter? Comment leur faire comprendre? Pouvez-vous me donner des adhiya? Barakallahu fi kashir wa jazakallahu khayran. Tafaddal ya cheikh.
J'ai bien compris la question. Naam. Et en quelques points, ce qu'ont dit les parents, c'est vrai. Que aussi, année, on doit étudier la science, la physique, la géographie, l'histoire, ceci, cela, naam, l'arabe, tout ça, ils ont raison. Mais il y a une chose. Les parents ici, ou bien les gens qui le ressemblent, n'ont pas dit que oui, mais la aqida, le fiqh et la science religieuse, c'est beaucoup plus important. Ça, ils ne le disent pas. Ils mettent ça au même niveau. Naam. Quand tu dis toi aqida, il te dit aussi physique. Tu dis fiqh, il te dit oui, mais aussi il étudie histoire et comme ça. Donc ils mettent ça au même niveau, alors que les autres choses, ça vient au deuxième niveau, pas au premier niveau. Premier niveau, c'est la aqida, la science religieuse, c'est ce qui me fait rapprocher d'Allah, connaître Allah, comment faire pour aller au paradis, pour m'éloigner de l'enfer. Ça, c'est des premières sciences obligatoires. Comme a dit le Hakami, أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وأول واجب على العبيد. C'est quoi? معرفة الرحمن بالتوحيد. C'est ça la première, يعني chose qu'on doit connaître. Le mohim. Donc on doit dire, c'est vrai, il faut apprendre ça, mais ça, c'est une obligation de groupe, pas une obligation yani personnelle, car il y a le wajib aini et le wajib kifai. Vous savez ça. par exemple, apprendre aqida, c'est wajib aini. Chacun de nous doit apprendre aqida. Mais apprendre le mirat, yani comment l'héritage, les règles de l'héritage. C'est une obligation, mais pas une obligation personnelle que chacun de nous doit connaître les règles de l'héritage. Mais on doit laisser ça à qui? Yani, il y a d'autres qui vont apprendre ça. Maalich, pas nous tous. Regardez par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Cheikh Al-Albani a dit qu'il était bon. Il a dit quoi? Il a dit, إِنَّهُ لَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ الْعَارِفِ وَلَكِنْ الْعُرَافَ فِي النَّارِ. Écoutez bien ce hadith. Il a dit, il est obligé pour les gens, hein, qu'il y ait parmi les gens, l'arif. L'arif c'est qui? L'arif c'est quelqu'un, yani, lorsque par exemple le prophète sallam allait par exemple vers une tribu, hein, ou là vers une ville, ou là, il faut qu'il y ait dans cette tribu quelqu'un, hein, qui soit désigné comme celui, yani, auquel on doit déposer plainte, etc. Comme ça, quand viendra le calife, ou bien le prophète, ou bien le émir, quand il vient vers cette ville, vers cette tribu, ce n'est pas tous les gens qui vont se lever et dire, moi j'ai tel problème. Ça va devenir, vraiment fauda. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, la bouddha l'innes min arif. Donc, il y a une personne, ça va devenir ingérable. Il y a une personne, n'am, que le prophète Hassan va contacter, ou bien le calife, et va lui dire, voilà, dans nos tribus, il y a tel problème. N'am. Donc, une seule. C'est comme un peu de nos jours, peut-être Zama, le député Zama. Zama, c'est le député qui va parler au nom de les gens de la ville qui l'ont voté. Zama. Il n'y a pas ça en islam, il y a l'arif. Al-Muhim. Mais qu'a dit le prophète Islam? C'est ça le témoin du cours. La bouddha l'innes min arif. Lakin l'arif finnar. Mais cette personne-là qu'on a déléguée, il a dit finnar. Elle sera dans le feu. Dans le feu. Donc quelqu'un va dire pourquoi l'arif sera dans le feu. Vous savez que quand on va lui donner, yani, yani c'est lui qui va nous gérer, c'est lui qui ceci, peut-être qu'il va nous gérer aussi dans l'argent, dans ceci, ça, et peut-être qu'il va en prendre, peut-être qu'il va ceci, cela. Donc, c'est comme le hadith qui a dit que les juges sont de trois. Non. Mais deux iront au feu, et un seul juge ira au paradis. Et pourtant, il faut le juge, ça, en islam, il faut le juge. Mais deux juges sur trois iront en enfer. Un seul ira au paradis. Donc ici, cette personne, l'arif, on a besoin de lui. Mais il a dit, il est enclin au feu, sujet à aller au feu. Car c'est très difficile ce qu'il fait. Il peut mentir, il peut dire, moi aussi j'ai un problème, il faut me donner ceci, cela, alors qu'il n'en a pas. Al-Muhim, c'est un poste tentant, qui tente. Tout le monde voudrait être arif, mais c'est plutôt le feu qui attend. Pour de la science, il faut aussi beaucoup de taqwa et beaucoup de crainte et beaucoup, beaucoup, na'am. Al-Muhim. Pourquoi j'ai cité ça? Qu'est-ce à voir avec la question de la personne? On va dire, na'am, cette chose est demandée, etc. C'est comme l'arif qui est demandé, on a besoin de lui, il faut qu'il y ait un arif. Mais comme a dit Cheikh Al-Albani, c'est pas moi qui prends ce poste. Je le laisse aux autres, car le hadith a dit au feu. Donc la même chose ici. Il faut la géographie, il faut l'histoire, il faut les maths, il faut le docteur, il faut ceci, il faut cela. Mais je laisse les autres les prendre. Qui m'oblige à ce que ce soit moi qui fasse cela? Je reconnais qu'il faut les mathématiques, qu'il faut la physique, qu'il faut ceci. Mais moi, je préfère la science religieuse. Et laisser les autres, ce sont eux qui font des mathématiciens et des physiciens et des astrologues. Mais moi, je fais ce qui est plus important, c'est la science religieuse. C'est elle qui va faire monter la personne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Donc, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais je suis pas obligé que ce soit moi qui fasse cela. Naam. Moi, je fais ce qui est meilleur. Et c'est la science religieuse, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
Jazakallah khairan, ya Cheikh. Donc, nous allons passer à la question suivante. Question numéro 7, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve, vous accorde tous sa miséricorde et pardonne à tous les croyants et croyantes et vienne en aide à tous les musulmans et musulmanes. La question est que j'ai été surprise dans une question posée à ce cours qu'il n'y aurait plus de religion, plus d'adoration. Pourriez-vous m'expliquer et m'éclairer? Donc c'était par rapport à la première question à la chère, la personne qui demandait est-ce qu'au paradis il y aurait ça, est-ce qu'il y aurait ça, est-ce qu'il n'y aurait plus ça et ainsi de suite. Donc cette personne a été étonnée par rapport au fait qu'il n'y aurait plus de religion, plus d'adoration. Pourriez-vous m'expliquer et m'éclairer? Tfadal, cher.
Mahmoud, est-ce que tu es sûr que c'est la septième et que ce n'est pas la huitième? Parce que Habib a écrit, avant celle-là, il a écrit sept, regarde, sept. D'accord, donc c'est lui qui s'est trompé. Donc ma question est que j'ai été surprise dans une question posée à ce cours, qu'il n'y aurait plus de religion, plus d'adoration. Pourriez-vous m'expliquer, m'éclairer? Donc, on n'a pas dit qu'il ne va pas y avoir de religion. On a parlé de... Qu'est-ce qu'il ne va pas y avoir? D'adoration. Non. Est-ce que dans le paradis ou en enfer, est-ce qu'il y a des adorations? Ce qu'il y a, non, c'est Darul Jaza. C'est la maison de la rétribution. Ce n'est pas la maison de teklif. Ce n'est pas la maison où on va te dire qu'il faut jeûner, il faut ceci. Ça, c'était dans la dunya. Et maintenant que tu as jeûné, que tu as prié, que tu as fait le hajj, tu as fait teklif, ce qu'on appelle teklif, les choses dont tu étais, dont c'était obligé que tu fasses. Naam. Maintenant que tu as fait les choses, naam, qu'il fallait que tu fasses, maintenant, on va passer à la maison de la rétribution. Et là, on va quoi? On va te... C'est comme quand tu passes un examen. Ensuite, on va quoi? Comment qu'on dit? On va te... Disons, on va t'honorer. Si l'examen, tu as yani, réussi, on va t'honorer. Et si maintenant, tu n'as pas réussi, ça, cela dépend. On peut yani, te blâmer, on peut... Je ne sais comment. Yom al-Qiyam, c'est la même chose. Tu vas passer donc cet examen ici dans ce bas monde et Yom al-Qiyama, ou bien on va t'honorer par le paradis, ou bien on va te blâmer par quoi? Par l'enfer. Et dans le paradis, il n'y a pas d'adoration. Et celui qui veut faire les adorations, il les fait sans aucune obligation et sans contrainte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté au paradis chez Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a vu le paradis, il a dit qu'entre autres, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une jeune femme devant un palais en train de faire les ablutions. Et il a demandé à qui ce palais, et il a cru que c'était à lui. On lui a dit c'est le palais de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Le problème, quand il a vu ce palais, qu'est-ce qu'il a vu devant le palais? Une femme en train de faire les ablutions. Donc certains savants ont dit, comment elle fait les ablutions? Les ablutions, c'est pour prier. Or, il n'y a pas de salat Yom al-Qiyama. Donc, ils ont dit, c'est une preuve que yani, on peut prier Yom al-Qiyama et qu'il y a des ablutions. Regardez le hadith, ce qu'il a dit. Une femme en train de faire des ablutions. Les savants ont répondu, ont dit, elle a fait des ablutions, naam, pas dans le sens obligatoire. C'est dans le sens que tu es libre. Si tu veux, toi, faire les ablutions, fais-les. si tu veux prier nafila ou là, ça, personne ne te dit pourquoi. Mais il n'y a pas une obligation comme dans ce bas monde. Dans ce bas monde, si tu ne les fais pas, tu ne fais pas ta salat, tu ne fais pas les ablutions, yani tu as fait des péchés, c'est l'enfer qui t'attend. C'est pour ça qu'il y a un hadith rapporté par Muslim. Muslim dans son sahih. Il a dit, Yom al-Qiyama, An-Nas yulhamun al-Tasbih, kama yulhamun al-Tanafus. Hadith authentique. An-Nas yom al-Qiyama, yulhamun al-Tasbih, kama yulhamun al-Tanafus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit yulhamun. Yulhamun, c'est-à-dire, il a dit les gens, quand ils seront au paradis, il leur sera inspiré al-Tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Comme il leur est inspiré, yani, le fait de respirer. Est-ce que pour respirer, tu fais des efforts? Tu penses, tu dis je vais respirer, je vais inspirer? Non, ça sort tout seul. Il a dit la même chose, tasbih yawm al-qiyama. Tout seul ça sort, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, sans le vouloir. C'est comme tu respires. Ce n'est pas comme ici, le tasbih dans notre vie, c'est une adoration. Tu réfléchis d'abord et tu dis, je vais dire subhanallah pour avoir une récompense. Ça va pas, si tu dis pas ça, si tu dis pas ça et tu mets pas l'intention, ça va pas sortir tout seul. Naam. Par contre, respirer, ça sort tout seul. Mais Yom al-Qiyam, c'est le contraire. Naam. Le tasbih va sortir tout seul. Pourquoi? Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration, je dis, sauf pour celui qui veut. Celui qui veut, veut faire des choses comme ça, qu'il les fasse. Naam. Mais il n'y a pas une obligation, alhamdoulilah. Fadlal.
Jazakallah khayran, cher. Donc nous allons passer à la huitième question. Question d'un frère qui demande, Allah dit, Allah azawajal dit, ce dont le sens est, ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle, à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose en l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Est-ce que le fait d'enseigner aux gens le tawhid avec l'intention de les sauver de l'enfer éternel entre dans ce verset? Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre.
Vous avez remarqué que le questionneur a posé deux questions. Ah, oui. A cité deux versets, n'a avant et n'a après. Ensuite, il a dit, est-ce que ça rentre dans ce verset? Je ne sais pas de quel verset il parle, si c'est du premier ou du deuxième. Ma'alish. On va commencer par le premier. Lorsque il a dit que Allah dit, vous croyez, répondez à Allah, الَّذِينَ مَنُوا اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. La cause de ce verset, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, a appelé quelqu'un qui était en train de prier. Imagine, tu es en train de prier, hein, peut-être nafila, hein, car si c'était la prière du groupe, donc il serait occupé à guider les gens. Mais ici, il a vu quelqu'un prier, peut-être la prière de la mosquée, peut-être doha, peut-être, il l'a appelé. Il l'a appelé, il lui a dit, viens. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa prière. Quand il a terminé, hein, il y a ce verset qui est descendu. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Non. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas venir quand je t'ai appelé? Qu'est-ce qui t'a empêché de venir, yannis, de répondre quand je t'ai pas appelé? Et il y a le verset. Al-Muhim. Donc, quand je suis en train de prier, hein, si j'étais vivant et que j'étais au temps du prophète, alayhi sallam, quand je suis en train de prier, si le prophète, alayhi sallam, m'appelle, je dois quoi? Je dois arrêter ma salat et aller vers lui. Hein. Si quelqu'un va dire comment, yani Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus important, c'est la salat, etc., comment je la coupe et je vais vers lui, je lui dis, écoute, la chose est, c'est très simple. C'est quoi? Je lui dis, tu dois aller vers le prophète et quitter ta salat. Pourquoi? Car c'est lui qui nous a montré la législation. Or, il se peut que ta prière, yani, est nulle. Et il veut te dire qu'elle est nulle. il se peut que ta prière maintenant, par exemple, tu es en train de prier Doha, par exemple, Salat Doha, il se peut que Salat Doha maintenant a été abrogée. Il n'y a plus Salat Doha. Et il veut te dire qu'il n'y a pas de Doha. Pourquoi tu es en train de prier? Donc, dans tous les cas, tu dois sortir de la Salat et aller vers celui qui t'a appris à faire la prière et qui t'a dit qu'il faut prier. Et maintenant, il dit, si c'est maintenant par rapport au deuxième verset, est-ce que le fait d'enseigner aux gens le tawhid avec l'intention de les sauver de l'enfer entre dans ce verset et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Ça rentre aussi, car quand tu apprends aux gens le tawhid, cher Adi astrologue, c'est pas une erreur. Une seconde. Car quand tu apprends aux gens, tu leur apprends le tawhid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de les faire revivre de nouveau. Toute personne qui n'a pas le tawhid est une personne morte. Toute personne qui n'est pas sur la voie droite est une personne morte. Et toi maintenant, en apprenant aux gens le tawhid, tu es en train, inshallah ta'ala, de les faire revivre de nouveau. C'est comme s'ils étaient morts et tu es en train de les revivre. C'est pour ça que, comme je vous ai dit plusieurs fois, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'une personne reconvertie rentre en islam, elle dit, je suis en train de revivre une nouvelle vie. J'étais morte et je suis en train de revivre une nouvelle vie. Ça, c'est seulement en entrant en islam. Qu'en est-il quand elle va, bi-idhnillahi ta'ala, apprendre le tawhid?
Donc, nous allons passer à la neuvième question. Question d'une sœur qui demande, Cheikh, il y a quelques cours passés, nous avions parlé de Salat Shafa lors des questions-réponses. Pour ceux qui avaient l'habitude de la faire en pensant que c'était légiféré, doivent-ils dorénavant mettre la niya qu'ils font Qiyam al-Layl ?
J'ai pas compris cette question. Si c'est possible que tu m'expliques ce qu'elle a voulu dire.
Donc, la fois dans les questions-réponses, vous avez parlé de Salat Shafa, comme quoi ça n'existait pas, cette prière, ainsi de suite. Donc, la personne demande, pour ceux qui la faisaient avant, sans savoir que ce n'était pas légiféré comme prière, doivent-ils dorénavant mettre la niya qu'ils font Qiyam al-Layl? Donc, est-ce qu'ils doivent mettre la niya de Qiyam al-Layl pour eux, ces deux rakats qu'ils faisaient? Fadal al-Shir, wa jazakallahu khair.
Avant cela, Habibadi, Shihadi astrologue, ce n'est pas une erreur. Peut-être c'est une erreur. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, yani astrologue. Je voulais dire par là, yani celui qui étudie, yani les astres, étudie kawakib. Qu'est-ce qu'il y a sur la lune, qu'est-ce qu'il y a sur le soleil, qu'est-ce qu'il y a sur Neptune, qu'est-ce qu'il y a, c'est loin, combien de kilomètres, c'est ceci, cela. Ceci n'est pas haram, il n'est pas interdit. Si ça s'appelle pas, celui qui fait ça, si ça s'appelle pas un astrologue, c'est que je me suis trompé. Et si ça s'appelle un astrologue, c'est ce que j'ai voulu dire. Il y a quelques cours passés, nous avions parlé de Salat Chef lors des questions-réponses pour ceux qui avaient l'habitude de la faire en pensant que c'était légiféré. Doivent-ils donner un maître à Nia qui font Qiyam al-Layl? Non, justement, ce n'est pas Qiyam al-Layl. Salat Chef, qu'ils appellent eux Chef, ça rentre dans la ratiba. Ça rentre dans la ratiba. Ça rentre dans les 12 rak'at qu'on doit faire ou qu'on fait pendant la journée. 2, qu'on appelle Salat al-Fajr. 4, avant d'or, ça devient 6. 2, avant d'or, ça devient 8. 2, avant Maghrib, ça devient, après Maghrib, ça devient 10. Et 2, après Isha, ça devient 12. Et le hadith a dit, quiconque prie 12 rak'at chaque jour, Allah Ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Fadlan. Si maintenant la personne n'a pas l'habitude de faire les 12 rak'at pendant la journée, alors qu'elle mette dans sa niya que ce sont deux rak'at de Qiyam al-Layl qui viennent yani, après Salat al-Isha. Sinon, elle doit mettre dans la niya que ça rentre dans les 12 rawatib bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlan.
Jazakallah, frère et cher. Donc nous allons passer à la dernière question, qui est la dixième. Question d'une sœur qui demande: cher, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui font le shirk. C'est insupportable, car même faire le rappel, j'ai l'impression qu'ils ne donnent aucune importance à ce que je dis. Que dois-je faire? Fadale, cher.
Tu dois avoir en tête deux ou trois choses. La première, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala que toi, tu n'en fasses pas. Donc, beaucoup de ton entourage font le shirk. Donc, moi, je dis alhamdulillah ala al-ni'ma, alhamdulillah ala al-fadl, alhamdulillah ala hadhihi al-karama, que moi, Allah ta'ala m'a aidé et je ne fais pas le shirk. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ce que tu dois te dire, c'est que quand on fait la da'wa, ce n'est pas toujours qu'on a, yani, la réponse est la bonne. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, beaucoup de gens ne l'ont pas écouté. Et beaucoup de gens n'ont pas répondu à son appel. Et il est qui il est, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, dans le hadith authentique, que quand les messagers viendront yom al-qiyamah et les prophètes, hein, qu'il y en a parmi eux qui viendront seuls. Il y en a parmi eux qui viendront avec 5, 6, 7, 10. Il y en a avec eux qui viendront avec 2 ou 3 de ceux qui ont répondu à l'appel. Et il y en a des messagers qui vont venir seuls. Seuls. Ils avaient des milliers ou peut-être des millions de gens avec eux, hein, et personne ne leur a répondu, même pas une seule personne. Ils vont venir seuls. Donc cette personne doit dire, hein, je ne peux pas être mieux que ce messager qui viendra seul. Et si Allah Ta'ala n'a pas encore écrit la guidée, yani, pour ces personnes, hein, ça ne viendra pas. Mais moi, je ne désespère pas. À chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je leur parle. Et si maintenant, ils ne veulent plus que je leur parle, je ne parle pas. Ça veut dire maintenant, j'ai établi la preuve sur eux. Ils ont dit, nous, on ne veut pas de ton din. On ne veut pas de ton rappel. On ne veut pas ta aqida. Hein, ne nous parle plus dans cette chose. Dans ce cas, ce sont eux qui n'acceptent plus. Je ne suis pas obligé de parler. Car je ne vais pas, yani, le faire entrer ça de force. Moi, je parle à celui qui accepte de moi et qui veut quand je lui parle. Et qui, à la rigueur, même s'il ne veut pas, ne me montre pas. Yani, il est, yani, il laisse ça dans son cœur et il baisse la tête et il écoute, même s'il n'accepte pas. Mais, quant à celui qui me dit comme ça, carrément, ne me parle pas, j'accepte pas, yani, je lui dis d'accord, et même mieux que cela, je ne vais plus m'asseoir avec lui. Ah bon? Ça, tu n'aimes pas. Quand je vais parler d'alcool et de danse et de cabaret, tu acceptes. Si je parle de ça, tu acceptes. Ou alors de la dunya et de la coiffure et de la mode et du mini-jupe, tu acceptes. La mini-jupe, tu acceptes quand je parle de ça. Alors moi aussi, je ne parle pas de ça. Moi aussi, je ne parle pas de ça. Donc, je vais m'asseoir avec ceux qui aiment quand je parle de ces choses. Et toi, va t'asseoir justement avec ceux qui te parlent des choses que tu aimes. Comme a dit le prophète, alayhi salam, il a dit, Al-arwah junud mujannada. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma ta'nakara minha talaf. Il a dit, les âmes sont comme des soldats enrégimentés. Des soldats. Il a dit, ceux qui se connaissent d'entre elles, c'est-à-dire les âmes, vont quoi? Vont s'unifier. Et celles parmi les âmes qui ne se reconnaissent pas, vont quoi? Vont se contrarier. C'est pour ça que, quand mon âme avec ton âme, yani, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes projets, on ne peut pas s'asseoir ensemble. Dès qu'on s'assoit, ça ne marche pas. Subhanallah al-Azim. Et quand on a la même chose, na'am, et les mêmes buts et les mêmes. Vite, on fait. Vite, yani, quand on se connaît vite à la même minute, yani, il y a une union parfaite entre nous et on commence même à s'aimer. On dit, c'est comme si je te connaissais, ça fait 10 ans. Alors que ça fait 5 minutes que je te connais. Et il y a le contraire, des gens que tu connais depuis 10 ans, et jamais tu n'es apaisé avec lui quand tu t'assois avec lui. Subhanallah al-Adem. Subhana khaliq al-arwah. Vous avez remarqué ça? Des gens, ton voisin, ça fait 20 ans qu'il habite en face de toi, et vous ne pouvez pas vous asseoir 2 minutes ensemble. Subhanallah al-Adem. Une personne, tu vois, pour la première fois, tu la rencontres dans un avion ou dans un bus, ou là, subhanallah al-Adem. Yani, cette union, yani, vous vous sentez yani, très proche l'un de l'autre. Naam. Tout ça à cause du hadith. À cause du hadith que je viens de citer. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Si Allah ta'ala yani, le veut, on va se rencontrer lundi, bi'idhna ta'ala. Sinon, si on ne se rencontre pas lundi, car peut-être je serai absent, on va se rencontrer mercredi, inshallah ta'ala. Mais vous, vous laissez à la base comme quoi on va se rencontrer. Sauf si quoi, si je vous écris sur Twitter que je suis absent. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفيكم بارك الله استرونوم عفوا عفوا استرونوم سيونس دي زاس فوالا استرونوم سي با استرولوج استرونوم اي نو استرولوج جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا باسكو ان فيت لاسترولوج استرولوج سي سيلوي كي كي يعني كرو كو لي زاستر يعني اون ont un certain effet sur, sur les choses et sur l'avenir et sur, c'est en ce sens que l'astrologie ce n'est pas bien. Donc c'est astronomie. Astronomie, science des as, des corps, etc. Jazakallahu khairan pour celui qui nous a corrigé ça et nous a donné cette faïda. À lundi, inshallah, ou à mercredi. Salam alaikum wa rahmatullah.